Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Merci d'être au rendez-vous comme tous les samedis. Un grand face-à-face au format XXL aujourd'hui, puisque France Inter s'est installé à Valence dans la Drôme pour 2 heures d'émission en public. Et merci à tous ceux qui sont venus participer, nombreux à l'émission, au Palais des Expositions Jacques Chirac. Un grand merci à vous. Bonjour et merci pour votre accueil. C'est le premier événement qu'accueille justement ce Palais des Expositions qui vient tout juste d'être inauguré. Mes camarades Natacha Polony et Gilles Finkelstein sont à mes côtés. Bonjour. Gilles Finkelstein est déjà plongé dans ses fiches. Ce sera probablement utile dans un instant pour débattre avec Natacha Polony et avec notre invité. Nous avons deux heures d'émission pour ouvrir le dialogue et prendre le temps de ce qui est rare par les temps qui courent, le débat démocratique. Des micros circuleront tout à l'heure dans la salle pour vous donner la parole. Et le grand thème ce samedi, c'est la République, notre République à l'épreuve des inégalités. Le thème est au cœur de ce grand face-à-face XXL. Comment réinventer notre modèle social mis à l'épreuve? Comment lutter contre les inégalités qu'on sait croissantes dans notre société, contre les injustices également? Et puis, des questions d'actualité. Peut-on, comment augmenter le pouvoir d'achat? C'est une question que se posent de très nombreux parmi nous. Et puisqu'une campagne présidentielle est l'occasion de réfléchir aux enjeux, aux défis de demain, comment relever celui de l'innovation à un moment où le monde s'est accéléré malgré la pandémie et pendant la pandémie.
Le grand face-à-face XXL, Ali Badou sur France Inter.
Et l'invité de ce grand face-à-face XXL en public depuis Valence, c'est l'un de nos grands économistes. Nous l'accueillerons d'ici une vingtaine de minutes. Ses travaux font référence partout dans le monde. Il est professeur au Collège de France, professeur à l'INSEAD et à la prestigieuse London School of Economics. Il avait participé à l'élaboration du programme économique d'Emmanuel Macron en 2017 et nous avons évidemment beaucoup de questions à lui poser, beaucoup de sujets dont nous souhaitons débattre avec lui. Et notamment, nous parlerons d'innovation, d'éducation, puisque ce sont certains de ces thèmes de prédilection. Philippe Aguillon viendra nous rejoindre donc tout à l'heure dans le Palais des Expositions ici à Valence. Mais d'abord, retour sur quelques-uns des temps forts de la semaine avec le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, Jacques Chirac, l'un des seuls présidents de la République, de la Ve République, à avoir brisé la malédiction de la non-réélection.
À l'avoir partiellement brisé, puisqu'il ne l'a brisé qu'après une cohabitation et dans des circonstances en 2002 dont tout le monde se souvient, après avoir obtenu lui-même un mauvais score au premier tour, moins de 20%, mais malgré tout qualifié, et élu triomphalement au deuxième tour avec plus de 80% des voix contre Jean-Marie Le Pen.
Et c'était le cas également de François Mitterrand qui a été réélu au sortir d'une cohabitation. Natacha, est-ce qu'on peut imaginer que c'est quelque chose que le président de la République, Emmanuel Macron, a en tête?
Oui, on peut évidemment imaginer qu'il a pensé et repensé le fait qu'il pourrait peut-être être le seul à être réélu en dehors d'une période de cohabitation, ce qui, là aussi, signifierait que le paysage politique français a largement bougé. Mais enfin, ça va faire partie des discussions que nous allons avoir.
Évidemment, puisque nous allons commencer avec l'actualité et cette situation qui, pour le coup, occupe très certainement le président de la République actuel. Cette situation toujours extrêmement tendue, vous le savez, aux frontières de l'Ukraine. Plus de 130 000 soldats russes sont massés de l'autre côté de la frontière et des manœuvres de l'armée russe d'une ampleur sans précédent. Jeudi, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était l'invité de la matinale de France Inter.
Lorsque vous avez 125 000 hommes à la frontière russo-ukrainienne, lorsque vous avez des grandes manœuvres en Bélarus et en mer Noire avec des manœuvres navales très significatives, oui, il y a de quoi être inquiet, la situation est très grave. Poutine, il a les cartes en main, ou bien il se considère comme une puissance de déséquilibre, ou bien il se sent comme constructeur d'un dialogue et d'une désescalade. C'est à lui de jouer, c'est à lui de dire les choses.
C'est à lui de dire les choses, on a le sentiment qu'il faudrait même aller plus loin et dire c'est à lui de décider, Natacha.
En tout cas, il a une grande part des cartes en main et ce qu'il a dit lors de la conférence de presse donnée avec Emmanuel Macron était très clair quand il a expliqué qu'il considérait que ce n'était pas la Russie qui s'étendait vers l'Ouest en tentant d'occuper l'Ukraine, mais que c'était l'OTAN qui s'étendait vers l'Est. Là, il y a en effet le nœud du problème. Il faut bien comprendre que après 1989, la question qui se pose, alors d'abord les États-Unis, l'OTAN s'était engagé en fait à laisser à la Russie son cordon sanitaire. La Russie a l'obsession de ce cordon sanitaire, de cet ensemble de pays qui lui éviterait d'avoir des ennemis à sa frontière, parce que la Russie est un pays qui n'a pas de frontières naturelles et qui craint les invasions. Et donc ce pacte tacite a été rompu de fait. Et après 1989, se pose la question, en fait, du rôle de l'OTAN, de la nature même de l'OTAN. Quand Emmanuel Macron, il y a quelques mois, disait que l'OTAN est en mort cérébrale, c'est oui. Plus grave que ça. La question est de savoir pourquoi l'OTAN existe encore, dans quel but. Alors, il y a évidemment cette alliance, mais il y a l'idée d'une possibilité d'agir si l'un des membres est attaqué. On voit bien que la présence même de la Turquie dans l'OTAN bouleverse totalement le sens que peut avoir cette alliance qui est censée être défensive. Et Vladimir Poutine se paye le luxe d'expliquer que, de fait, l'OTAN n'est absolument pas une alliance défensive. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'il existe encore un Occident ? Et je pense que tout le problème que nous avons en France aujourd'hui est de savoir si nous réussissons à penser le monde non pas avec un Occident face à un autocrate brutal, tout épouvantable qu'est Vladimir Poutine, mais les États-Unis qui sont une puissance avec ses intérêts et les pays d'Europe dont la France avec leurs propres intérêts.
Gilles Finkelstein.
Il y a une question avec l'OTAN, je crois qu'il y a un problème avec la Russie. Et donc, je ne sais pas si c'est un point de décalage par rapport à ce que disait Natacha. Il y a eu cette conférence de presse après le voyage d'Emmanuel Macron en Russie et le rendez-vous avec Poutine. Je crois que c'était un voyage qui était courageux, au sens où Emmanuel Macron avait peu à gagner. Il était illusoire de penser que les choses pouvaient s'arranger rapidement. Les enjeux internationaux dans une campagne présidentielle sont secondaires et il n'a pas de stature présidentielle à construire, elle est là. En revanche, il avait, et il a beaucoup à perdre, il est clair que Vladimir Poutine ne peut que souhaiter sa défaite, c'était déjà le cas en 2017, on sait le rôle qui a été joué notamment par Russia Today pendant le mouvement des Gilets jaunes, donc depuis son élection, Vladimir Poutine essaie de déstabiliser le président et c'était un risque que d'aller à quelques semaines du scrutin là-bas. Ça ne s'est pas mal passé. Est-ce que le voyage pour autant a été utile ? Disons que dans le meilleur des cas, ça a permis de stopper l'escalade. Dans le pire des cas, cela n'aura pas changé grand-chose. Reste la question, l'autre question qui est celle de la Russie et de Vladimir Poutine. J'entendais sur l'antenne de France Inter cette semaine Dominique de Villepin dire que Vladimir Poutine était prévisible. Je ne sais pas s'il est prévisible. Le problème, c'est que je ne sais pas qui peut affirmer aujourd'hui avec certitude ce qu'il veut et jusqu'où il veut aller. Et donc, quand Jean-Yves Le Drian dit qu'on est dans une situation qui est une situation dangereuse, une situation même explosive, je crois que c'est le cas.
Un éditorialiste américain a résumé les choses avec cette formule « La guerre est imminente, mais elle n'aura pas lieu, elle est impossible ». Alors, partagez le diagnostic.
Disons que on peut comprendre pourquoi il explique ça. Elle ne peut pas avoir lieu dans le sens où, en tout cas, on se doute que les États-Unis n'engageront pas des soldats face à des soldats russes. Oui, bien sûr. Le problème est de savoir exactement jusqu'où on peut bloquer Vladimir Poutine. Sachant que Vladimir Poutine poursuit tout de même un but que l'on arrive quand même à définir. En gros, ce qui l'a rendu furieux est la révolution de Maïdan de 2014 et le basculement. Donc le pouvoir pro-russe a été chassé au profit d'un pouvoir qui était largement, non pas seulement indépendantiste, nationaliste ukrainien, mais pro-américain, évidemment, avec des liens extrêmement forts, des liens commerciaux, des liens au sein même du nouveau gouvernement. Et il y avait là, de la part de, on va dire, du clan occidental, quelque chose qui était un message évident adressé, qui était le fait que, à aucun moment, l'Occident, l'OTAN et donc les États-Unis ne renonceraient à aller jusqu'au bout de là où ils peuvent aller. Et quand Emmanuel Macron dit dans cette conférence de presse que l'OTAN va garder sa politique de porte ouverte, bien sûr qu'il ne peut pas dire autre chose. Mais cette politique de porte ouverte signifie en fait que l'on considère qu'il est normal de pousser l'OTAN et donc les intérêts américains jusqu'à la frontière. J'ajoute juste une chose sur ce que disait Gilles sur l'intérêt que pouvait avoir Emmanuel Macron en termes de politique intérieure. Oui, cette visite était courageuse. Oui, ça valait le coup d'y aller. Il fallait y aller. Après, il n'y a pas aucun intérêt sur le plan de politique intérieure, parce que certes, Emmanuel Macron n'a pas à construire de stature présidentielle, mais le message qu'il envoie en politique intérieure à tous les citoyens français, c'est est-ce que vous imagineriez un de mes concurrents face à Vladimir Poutine, avec cette tension, cette brutalité de Poutine, etc. C'était évidemment ça aussi qui était présent.
Gilles Finkelstein.
Le problème de la Russie et de Poutine, son déchirement, est que l'Ukraine est choisie par référendum et par un référendum quasiment à l'unanimité, c'est-à-dire aussi bien sur la partie occidentale, européenne, la plus européenne de l'Ukraine que sur la partie la plus russophile, de devenir un État indépendant. Et donc la source du problème est celle-là. Dès lors, aujourd'hui et pour la suite, parce que c'est une crise qui va durer, ça serait évidemment une erreur de ne pas continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine, parce que il est là, parce que c'est un grand pays et un grand voisin. Mais je crois que ça serait une faute de s'illusionner à la fois sur sa fiabilité. Il a montré à plusieurs reprises qu'il tenait relativement peu ses engagements, et que ça serait une erreur aussi de s'illusionner sur la convergence de nos intérêts et de nos valeurs. Je crois qu'on est durablement dans une situation tendu avec la Russie.
Le duel continue ici à Valence, même si nous avons une table beaucoup plus petite que celle de Vladimir Poutine dans son salon de Moscou. On continue à débattre.
Le grand face-à-face XXL, le duel.
Faire en 30 ans de la France le premier grand pays du monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles et renforcer notre indépendance énergétique, industrielle, dans l'exemplarité climatique. En quelque sorte, reprendre en main notre destin énergétique et donc industriel.
Emmanuel Macron était en déplacement à Belfort jeudi. Il annonçait un vaste plan de relance du nucléaire civil, à la fois pour assurer l'indépendance énergétique de la France et le respect des engagements climatiques. Il a annoncé la prolongation des centrales en fonctionnement, la construction de nouveaux réacteurs EPR. Gilles Finkelstein, vous vouliez revenir sur ce moment décisif pour vous?
Oui, on pourrait dire, c'est si on regarde l'histoire de ce quinquennat, c'est un coup dans le zig, un coup dans le zag, sur le nucléaire, sur l'industrie, sur EDF. On pourrait dire qu'il y a tromperie sur la personne, parce que c'est moins le président de la République que le candidat qui a parlé. Et lorsque Emmanuel Macron a annoncé des décisions, il a annoncé des décisions qui seraient prises s'il était élu. Mais si on s'attache au contenu, et je crois que c'est ça l'essentiel, parce que c'est un enjeu qui est absolument déterminant, je crois qu'il n'y a pas tromperie sur la marchandise. Et que c'était un discours très important sur un sujet qui est un des sujets les plus structurants. On peut d'abord commencer par une lecture technique de ce qu'il a dit. C'est un discours qui est ambitieux. Les ambitions qu'il affiche sont des ambitions élevées. Ça a été peu souligné, mais c'est le cas sur la consommation d'énergie à horizon 2050. Alors, pas tellement sur la réduction, hein, c'est en gros, ce qui est prévu, c'est que on change nos produits par des produits qui sont plus efficaces, on rénove nos logements et ça réduit la consommation d'énergie. Il ne va pas plus loin. En revanche, et Natacha y sera sûrement sensible, il s'inscrit dans un scénario dans lequel il y a une réindustrialisation du pays importante et donc une consommation plus importante. Donc ça, c'est le premier point, ambition sur la consommation. Ambition aussi, et ça c'est nouveau de la part d'Emmanuel Macron, sur la relance des énergies renouvelables. Très ambitieux sur l'énergie solaire, 10 fois plus que ce que l'on a aujourd'hui, très ambitieux sur l'éolien offshore et cette émission
en mer.
en mer, cette émission était à Saint-Brieuc. Il y a quelques mois, on a vu la difficulté qu'il y avait à implanter des éoliens offshore. Donc là, on est sur une multiplication considérable avec 50 parcs. On n'en a toujours pas un seul. Plus prudent sur les éoliens terrestres dont on voit les difficultés d'implantation. Enfin, je termine sur cette lecture technique par un dernier point, celui qui a été le plus commenté, ambitieux, et là pour le coup peut-être trop ambitieux sur le nucléaire, parce que 6 EPR de nouvelle génération plus 8 d'ici 2050, c'est un défi industriel pour EDF de réussir à produire à un tel rythme autant d'EPR. Et c'est un défi, y compris géographique. C'est-à-dire qu'il va falloir, s'il y en a 14, trouver peut-être des nouveaux endroits où les implanter.
Oui. Donc
là, peut-être que la barre a été mise un peu haut.
Natacha.
Alors, premier point, ce sujet rejoint le sujet précédent et il faut absolument le souligner. Ce qui fragilise l'Europe et rend si difficile le fait qu'elle prenne en main sa sécurité, c'est que les Européens ont des intérêts divergents. L'Allemagne a fait le choix du gaz et donc de la dépendance au gaz russe. Les États-Unis veulent vendre aux Européens leur gaz naturel liquéfié, d'où l'importance de supplanter les Russes et donc de les repousser dans leurs frontières. Et face à cela, la France avait un atout, le nucléaire. Pendant 20 ans, elle a négligé cet atout et nous le payons aujourd'hui. Et on peut se réjouir qu'Emmanuel Macron ait mis fin à ce déclin programmé du nucléaire français qui est un élément d'indépendance. Alors bien sûr, il est de bon ton de dire oui, mais nous n'avons pas d'uranium, donc nous, en fait, ce n'est pas une énergie souveraine.
Et que faire les déchets ?
Oui, d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que le problème du tout nouvel amour d'Emmanuel Macron pour le nucléaire, c'est qu'il a mis fin, il y a quelques années, au programme Astrid, qui était la quatrième génération de nucléaire, justement celui qui utilise les déchets et qui les recycle, donc qui diminue la dépendance à l'étranger. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Alors, on peut se réjouir de cette volte-face. Encore faut-il regarder d'abord tout le temps perdu qui fait que nous avons perdu en savoir-faire et que donc remettre en route cette filière nucléaire va prendre du temps. Il va falloir maintenant non seulement la volonté qu'il a montrée, mais une forme un cap extrêmement clair. Deuxième point, quand on voit le choix, par exemple, de faire racheter les turbines Arabel par EDF, on peut très sincèrement s'étonner. C'est-à-dire qu'il y a non seulement le fait que on a vendu Alstom pour 588 millions d'euros en 2014 et qu'aujourd'hui on va le racheter 1 milliard 100 millions, ce qui est une aberration, ce qui est absolument consternant, mais en plus, Emmanuel Macron fait le choix de faire racheter les turbines Arabel par EDF, c'est-à-dire par un distributeur et pas par un industriel. C'est un métier, l'industrie. Donc le risque, c'est d'avoir donc EDF qui ne veut pas de cela, qui y va contrainte et forcée, et qui risque de ne pas savoir manœuvrer. On peut déplorer cela. Donc on peut se réjouir qu'on reprenne enfin en main cette filière nucléaire. On peut se réjouir des investissements. Il faut rester extrêmement prudent parce que ce n'est pas parce qu'on proclame tout à coup un nouvel amour qu'on est constant dans cet amour.
Et la question de la transition énergétique, nous aurons évidemment l'occasion d'en parler avec notre invité Philippe Aguillon dans un instant. D'un mot, Gilles, avant de passer au prochain sujet.
Oui, peut-être d'un mot quand même. En fait, j'arrive à peu près au même résultat que Natacha, mais pas par le même cheminement. C'est-à-dire que je trouve que c'est...
Vous êtes d'accord, on va passer au prochain sujet.
Non, parce que le chemin est au moins aussi important que le but.
Je réfléchis, tout le monde médite ici dans le public. Est-ce que le chemin est aussi important que le but ?
Oui.
Oui.
Je confirme.
Le discours d'Emmanuel Macron, je partage en gros les orientations, mais moins pour des raisons stratégiques que pour des raisons climatiques. Alors moi, je suis assez agnostique sur le nucléaire, mais dès lors qu'il n'y a pas d'autre solution si on veut sérieusement obtenir la neutralité carbone en 2050, ce choix et des énergies renouvelables et du nucléaire me semble un choix équilibré.
Le duel continue.
Le grand face-à-face XXL, le duel.
On n'a pas de fébrilité, donc on n'a pas de raison de ne pas répondre aux invitations quand elles sont faites. Mais ce serait une campagne écolo avec un projet fort, cohérent. Et il n'y a pas de problème que chacune et chacun puisse venir dans notre projet. L'important, c'est de gouverner après et d'avoir un grand projet en cohérence.
C'était la voix de Yannick Jadot. Il était en meeting en début de semaine à Rennes. Et parmi toutes les candidatures à la présidentielle, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, Jill Finkelstein, vous vouliez vous arrêter sur celle-ci en particulier. Pourquoi ?
Oui, il y a une sorte de mystère. C'est l'heure de l'écologie et il y a une panne des écologistes. Quand on regarde la hiérarchie des préoccupations, l'environnement est depuis maintenant des mois et des mois dans les trois premières préoccupations et les Français massivement ont le sentiment qu'il y a urgence à agir. Quand on regarde l'espace politique, le centre-gauche est en difficulté, il y avait un espace pour l'écologie et Yannick Jadot pouvait incarner une nouveauté, il avait fait un bon score aux élections européennes de 2019.
Donc, vous en parlez déjà au passé.
Donc, l'heure de l'écologie. Et pourquoi la panne des écologistes, en tout cas à ce stade de la campagne, on voit que la dynamique est à la baisse maintenant depuis des semaines et des semaines. Quand on a commencé notre enquête avec le journal Le Monde, le Cevipof, Ipsos et la Fondation Jean Jaurès, Yannick Jadot était près de 10%, il est aujourd'hui à 7% et même dans certaines enquêtes en dessous de 5%. Donc la dynamique est à la baisse, il garde une sociologie extrêmement déséquilibrée. Il a par exemple deux fois plus d'électeurs qui ont de 18 à 24 ans que d'électeurs qui ont plus de 60 ans. Il a deux fois plus de cadres que d'ouvriers. Il a deux fois plus d'électeurs qui ont le bac que d'électeurs qui ne l'ont pas. Donc il a une sociologie qui est très déséquilibrée et il garde une image qui est fragile. Il n'a pas progressé sur la présidentiabilité. Est-ce qu'il a l'étoffe d'un président, pour revenir au débat que nous avons eu précédemment? Mais il n'est pas non plus un candidat considéré comme ayant une forte proximité avec les Français. Et même sur est-ce qu'il incarne le changement, eh bien, c'est un résultat qui est moyen. Donc on est dans ce paradoxe, l'heure de l'écologie, la panne des écologistes.
Natacha.
Alors, pour continuer sur ce que vient de dire Gilles, c'est assez intéressant de voir que ce qu'il a choisi comme mot pour incarner son programme, c'est réparer, protéger, préparer. Ce qui est tout à fait justifié. La dimension de protection est en effet fondamentale dans la demande des citoyens. Préparer, en effet, on veut se projeter dans l'avenir et pour ça, il faut réparer ce qui a été abîmé. C'est tout à fait, c'est intelligent, c'est bien. Et il y a pas mal de choses qui sont intelligentes dans cette façon d'essayer de penser une écologie qui soit une écologie positive, qui se projette dans l'avenir, qui évoque le bonheur collectif, qui évoque le bien-être. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas dénier à Yannick Jadot, c'est d'avoir compris que l'écologie ne pouvait plus s'enfermer dans une forme de radicalité relève plus du gauchisme culturel que de l'écologie. Donc ça, c'est tout à fait positif. Et en effet, le mystère, c'est pourquoi ça ne prend pas. Ça ne prend pas pour différentes raisons que vient d'énumérer Gilles. J'y ajouterais par exemple des phrases comme, pour revenir au sujet précédent, il n'y a que les dictateurs et l'extrême droite en France qui soutiennent le nucléaire. Bon, c'est une façon de prendre le problème. Et à mon avis, dans une campagne qui est pour une fois centrée sur un sujet comme le nucléaire, c'est assez intéressant de voir à quel point les écologistes ont du mal à comprendre qu'ils se sont enferrés là-dedans et que la demande sociale ne va pas vers la couverture de l'ensemble du pays avec des éoliennes et que finalement, dans lui qui a essayé d'intégrer cette dimension du bonheur et du bien-être dans son programme, proposer des paysages entièrement recouverts d'éoliennes ne relève pas de cela. Il y a des tas de petits paradoxes comme ça qui expliquent en plus de la difficulté de la posture présidentielle. Mais je crois que le cœur du problème, oui, c'est que la dimension protégée de son programme, quand on lit, elle n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de sa part d'évacuer ce qui fait problème dans la société française aujourd'hui. Ça glisse dessus comme l'eau sur les plumes du canard. On a l'impression qu'il n'y a aucun problème de sécurité, que la Biélorussie n'a pas essayé d'envoyer des migrants comme arme pour déstabiliser l'Europe, qu'il n'y a absolument pas de problème dans l'école aujourd'hui, qu'elle n'est pas en train de décrocher et qu'il n'y a pas donc d'écart absolument scandaleux entre les différentes classes sociales du point de vue de l'éducation. Enfin, tout ça disparaît, je pense que les citoyens le sentent.
Gilles ?
Oui, peut-être d'un mot pour essayer de comprendre les causes. Il y a d'abord des causes, je crois, qui sont extérieures à Yannick Jadot. Je pense que plus que d'autres, il a besoin d'avoir une campagne dans laquelle il peut expliquer son projet. Or, Il n'y a pas de campagne depuis maintenant des mois et des mois, donc c'est sans doute un handicap plus important pour lui. Et puis il y a des causes qui sont internes. Je crois que son projet mérite d'être lu. Hein. Il est sur le site de Yannick Jadot, les 120 propositions. Il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait intéressantes. Le problème, sans doute, c'est que il a, depuis sa victoire serrée aux primaires, un peu désaxé sa campagne et qu'il parle trop aux militants d'Europe Écologie Les Verts et pas assez aux Français qui sont préoccupés par l'environnement.
Il n'a pas parlé comme Jacques Chirac, justement, devant un parterre de chefs d'État, de la maison qui brûle et de nous qui regardions ailleurs, puisque, après tout, c'est lui qui a formulé l'une des phrases les plus chocs sur la question écologique, Jacques Chirac, et c'est uniquement en clin d'œil que je le dis, puisque nous sommes ici dans la salle Jacques Chirac, le parc des expositions de Valence qui vient d'être inauguré et qui nous accueille. Place au débat maintenant, toujours en public, avec l'économiste Philippe Aguillon.
France Inter, le grand face-à-face XXL, le débat.
Le grand face-à-face XXL qui s'est installé à Valence ce samedi, je vous le disais. Merci au public nombreux et chaleureux qui nous accueille ici au parc des expositions. Vous aurez évidemment la parole tout à l'heure pour débattre de ce thème que nous avons voulu mettre à l'agenda de notre tournée à travers la France. La République à l'épreuve des inégalités. Comment réinventer le modèle social français? C'est ce fil rouge que nous allons suivre tout au long de l'émission avec notre grand invité que je remercie d'être avec nous. Il est lu, commenté, discuté partout dans le monde. Professeur au Collège de France, chaire économie des institutions de l'innovation et de la croissance. Il est spécialiste de la destruction créatrice et il nous dira ce que ça veut dire dans un instant. Bonjour Philippe Aguillon.
Bonjour.
Et merci infiniment d'être avec nous. Je le disais, l'un de nos grands économistes, vous avez beaucoup réfléchi notamment sur le choc de la pandémie, sur ses conséquences sociales, sur ses conséquences économiques, sur ce monde qui a été profondément changé et sur les choix que nous devons faire à la fois pour protéger notre modèle social, ce à quoi nous tenons, et pour retrouver le chemin de l'innovation, puisqu'il y a eu une accélération de l'histoire en matière technologique avec l'intelligence artificielle, la robotique, le télétravail, et je ne vais pas faire la liste de tout ce que nous avons découvert pendant la pandémie, mais partons d'abord d'une question, Philippe Aguillon, d'une question qui est la première préoccupation des Français, à savoir le pouvoir d'achat. Vous avez déjà été engagé auprès de politiques que vous avez conseillé, notamment Emmanuel Macron en 2017. Est-ce que c'est une question qui ne témoigne pas de l'impuissance du politique, celle du pouvoir d'achat? Est-ce qu'on peut augmenter le pouvoir d'achat, tout simplement, pour le dire?
Alors, je sais qu'il y a eu différents candidats ont formulé des propositions. Certains ont proposé d'augmenter de 10%, puis le 10% est devenu 3%, puis d'autres. D'abord, je crois qu'il faut dire que le pouvoir d'achat des ménages, par unité de consommation, a augmenté en France de près de 6% entre 2017 et 2021. Sur la même période, il n'a progressé que de 3% au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie. Il a reculé de 2% en Espagne. En fait, on a progressé deux fois plus vite en termes de pouvoir d'achat que dans la moyenne des autres. Donc, c'est intéressant, la perception et la réalité. Donc, d'abord, la France n'est pas un pays où le pouvoir d'achat a reculé. Il a, en fait, progressé. Et cette progression bénéficiait à tous les ménages, à tous les niveaux de revenus. Donc, déjà ça, on peut
à tous les ménages
là-dessus, en France, depuis le début du quinquennat. Maintenant, il y a des leviers pour améliorer encore le pouvoir d'achat et les salaires. Moi, j'aimerais mentionner deux leviers possibles, mais c'est à discuter.
On va y venir, justement.
On y viendra. Donc ça,
mais c'est juste pour vous interroger sur la manière de s'emparer d'un sujet pareil qui paraît ne pas relever du politique, justement, puisque il y a la question de l'inflation. C'est vrai que nous avons traversé une crise longue, mais qu'aujourd'hui, les prix augmentent et que tout le monde peut en faire le constat. Et donc, ce que vous décrivez comme une tendance des 5 années du quinquennat d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est pas quelque chose qui a subi un coup d'arrêt, Philippe Aguillon, avant de donner la parole à Gilles et Natacha?
Alors, il y a eu d'abord, alors en partie, c'est les créations d'emplois, donc ça, c'est beau dire que c'est l'économie, mais en partie, ça a été des mesures fiscales et sociales qui ont affecté donc le pouvoir d'achat. Et également, les mesures qui sont prises sur les prix de l'énergie affectent le pouvoir d'achat. Je crois qu'on peut faire davantage. Par exemple, il y a l'idée de la participation à laquelle on peut donner un contenu nouveau, c'est-à-dire que les salariés deviennent actionnaires co-actionnaire de l'entreprise. Je pense que ça peut être un grand levier d'amélioration des revenus des salariés et également de les faire participer davantage aux décisions dans l'entreprise. Je pense également qu'il y a l'idée de négocier par branche. Vous savez, souvent, quand on fait aux négociations au niveau de la firme, les entreprises se font concurrence au sein d'une branche. Et donc, ça ne pousse pas à des augmentations de salaire. Négocier au niveau de la branche, ça permet davantage de que les gains de productivité se traduisent par des progressions de pouvoir d'achat. C'est deux leviers possibles, il peut y en avoir d'autres, mais je pense que c'est des leviers qui peuvent être activés par les gouvernements.
Et on va en discuter. Natacha Polony puis Gilles Finkelstein.
Juste un point, je voudrais revenir sur ce que vous disiez à l'instant sur la question du pouvoir d'achat. On est un peu sur cette question du pouvoir d'achat dans la même situation que sur l'insécurité en 2002, c'est-à-dire cette espèce d'idée qu'il y aurait non pas de l'insécurité, mais un sentiment d'insécurité. Et là, ce ne serait pas une baisse de pouvoir d'achat, ce serait un sentiment de baisse de pouvoir d'achat qui ne se vérifierait pas dans les chiffres. Il me semble que, d'abord, il faut tenir compte du fait qu'il y a énormément de dépenses contraintes qui sont de plus en plus importantes, en fait, puisque s'y sont ajoutées différentes choses comme les abonnements téléphoniques, tout ce genre de choses, qui sont indispensables, en fait, pour les gens, mais l'élément qui me semble absolument essentiel, et je suis effarée que ça n'apparaisse pas dans cette campagne, c'est la question du logement. Les Français payent 30% en moyenne de leur revenu pour leur logement, c'est 10% en Allemagne. C'est absolument gigantesque. Mais surtout, l'INSEE, quand elle calcule justement l'évolution du pouvoir d'achat, ne prend pas en compte le remboursement des crédits, au motif que c'est un investissement. Et que donc, on considère que cet argent versé par un ménage, en fait, il va le retrouver à la fin. Donc, ça ne fait pas partie du panier. Or, l'évolution du prix de l'immobilier fait que les Français payent, pour ceux qui payent un crédit, remboursent 800 euros de plus par an qu'il y a 10 ans à peu près. Donc, c'est énorme, ces 800 euros, ils les voient. Est-ce que le problème ne vient pas de là? C'est pas du ressenti, c'est du réel, en fait.
Non. Philippe Baguillon.
Alors, d'abord, je pense que sur le logement, on peut faire des choses. C'est certainement un domaine qui a été négligé, qui doit être traité. Je pense qu'il faut construire aussi beaucoup plus de logements, que l'offre de logements augmente. Donc, il y a vraiment une politique du logement à avoir. Moi, je suis pas spécialiste, donc, du domaine du logement. Mais certainement, c'est un domaine qui, à mon avis, a été négligé et qui doit être repris dans le prochain quinquennat. Et je pense que il faut ces leviers supplémentaires, je crois, pour augmenter le pouvoir d'achat. Je pensais à la participation et aux négociations par branche comme façon de traduire davantage les progrès en productivité en termes de pouvoir d'achat. Je pense que ça peut être des leviers importants. Mais France, comparée à d'autres pays, alors c'est vrai que le problème du logement n'est pas le même chez nous qu'ailleurs, peut-être. Donc, mais que quand même, finalement, on peut pas vraiment dire, et notamment pendant la pandémie, qu'il y a eu un vrai recul de pouvoir d'achat. En fait, il a été préservé et dans toutes les catégories. Mais effectivement, vous mettez le doigt sur le secteur du logement qui est véritablement un défi.
Gilles.
Devrait être levé dans le prochain quinquennat.
Prolonger sur cette question-là. Ce qui est absolument fascinant, c'est qu'il y a d'un côté les données que vous avez évoquées, qui sont celles de l'ensemble des instituts publics et privés, c'est-à-dire d'une progression pour l'immense majorité des Français du pouvoir d'achat pendant ce quinquennat, et d'un autre côté une perception, je regardais les dernières enquêtes, vous avez moins de 10% des Français, 9% des Français qui disent « mon pouvoir d'achat a progressé dans le quinquennat ». Donc l'écart entre les deux est absolument considérable, et on comprend que au fur et à mesure que cette campagne avance, la question du pouvoir d'achat devient de plus en plus prioritaire. Dans l'enquête que nous avons sortie hier, la question du pouvoir d'achat est citée par un peu plus de 50% des Français dans les trois priorités principales et maintenant domine de très loin toutes les autres questions. Donc, c'est une campagne qui est centrée ou qui devrait être centrée sur le pouvoir d'achat. Alors, si on vient aux outils, moi, j'ai des questions qui sont simples. Un, est-ce que l'économie française, les entreprises françaises ont des marges pour augmenter le pouvoir d'achat? Si oui, quels sont les outils? Vous en avez cité deux, vous avez cité les négociations de branche, vous avez cité les participations. Quand on regarde le débat public, la question du SMIC revient, comme elle est revenue en Allemagne. Est-ce que ça peut être un outil ou pas? Et la question des baisses des charges, donc par d'autres candidats, revient là aussi de manière traditionnelle. Est-ce que ce sont des bons outils?
Je pense qu'en tout cas, tous ces outils...
Baguillon.
Je trouve que la participation et la négociation par branche, ça me paraît voilà, des outils, après, en tout cas, à regarder de très près. Je pense le fait qu'il y ait création, beaucoup de création d'emplois et baisse du chômage, ça va faire quand même aussi progresser le pouvoir d'achat. Donc, ce qui passe sur le marché du travail en général est quelque chose qui va faire progresser le pouvoir d'achat. Voilà des leviers. Maintenant, il peut y avoir d'autres leviers à examiner. Bon, voilà, moi, je me suis intéressé à ceux-là. Mais je pense, en tout cas, pour répondre à la question initiale, que l'État dispose de leviers pour traiter de la question du pouvoir d'achat. Effectivement, la plus grande chose aussi, c'est, je veux dire, à long terme, ça va être l'amélioration de la productivité. C'est-à-dire que à long terme, c'est l'investissement dans la croissance de la productivité, on y reviendra tout à l'heure, qui est la meilleure garantie de progression à long terme du pouvoir d'achat.
Quand on parlera d'innovation, évidemment, par exemple.
Et donc on parlera d'innovation, de réindustrialisation, etc. Donc je pense que sur le long terme, le meilleur garant de progression de pouvoir d'achat, c'est la prospérité et c'est l'accroissement de la productivité. Et on reviendra sur les leviers d'accroissement de la prospérité. Je pense que le quinquennat précédent a été le quinquennat, parce qu'il se termine, a été celui de la libéralisation avec les lois travail et les lois fiscales. Le prochain doit être celui de l'investissement dans l'innovation, dans la croissance, dans l'environnement, et doit être celui des jeunes. On parlera du revenu des jeunes, j'espère également.
Évidemment, voilà, qu'on va parler du revenu des jeunes.
Ça doit être ça, le prochain quinquennat. Et
je crois qu'il y a travaillé sur le sujet. Mais en l'occurrence, une question avant de donner la parole à Natacha, c'est une question qui porte sur notre modèle social, un modèle social qui a été mis à l'épreuve pendant la pandémie, avec l'État qui est intervenu, le quoi qu'il en coûte, on s'en souvient. Est-ce que c'est quelque chose qui est viable? Est-ce que maintenant c'est fini et qu'il va falloir s'habituer, se préparer à l'austérité? Et quoi que disent les différents candidats, on sait qu'une campagne présidentielle, c'est le moment par excellence des promesses. Que quoi que disent les candidats, nous n'y échapperons pas, Philippe Aguillon.
Alors, je voudrais dire une chose sur la Covid. La Covid a révélé des faiblesses du capitalisme différentes d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, ça a montré vraiment un modèle social qui ne marche pas. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont perdu leur emploi, et aux États-Unis, quand on perd son emploi, on perd la couverture santé et on tombe en pauvreté beaucoup plus facilement. Et c'est ça qui s'est produit aux États-Unis. Nous, on a beaucoup mieux tenu le choc. Nous, les Allemands, les Scandinaves, on a, de ce point de vue-là, montré la solidité de notre modèle social.
Mais les inégalités ont explosé.
Mais pas chez nous.
Pas chez nous.
En termes d'inégalité, si on regarde,
si on regarde
en tout cas, ce qui est intéressant, moi je m'intéresse beaucoup en termes d'inégalité à l'inégalité globale, c'est-à-dire l'indice de Gini qui mesure l'écart global à l'égalité parfaite. Et ben si vous regardez l'indice de Gini, eh bien on voit que de 2017 jusqu'à 2021, cet indice est resté stable en fait. Il n'a pas augmenté, alors que dans d'autres pays, notamment les États-Unis et ailleurs, il a sensiblement augmenté. Alors on pourra parler tout à l'heure de la mesure des inégalités. Donc en tout cas, ce que je veux dire, c'est que par rapport à d'autres modèles, la France, socialement, le modèle social a tenu. Alors maintenant, on peut toujours l'améliorer, mais quand même, on a réussi à... Alors maintenant, le défi, c'est de devenir innovant comme les Américains, mais sans prendre le modèle social américain. Donc moi, je veux devenir innovant comme les Américains, mais avoir un modèle social que j'améliore par rapport à ce que j'ai maintenant. Et c'est ça le défi maintenant. Alors vous me dites tout à l'heure la dette, etc. Et c'est là que on peut plus raisonner comme Fillon raisonnait en 2017. Je pense que, et c'est là que il y a eu la tribune de Draghi et de Macron dans le Financial Times. Et c'est la manière.
Alors tout le monde ne l'a pas lu, Monsieur le Professeur, mais
oui.
Non, il faut faire un peu de,
oui,
de
pédagogie
en l'occurrence.
Alors qui est Mario Draghi? Mario Draghi,
voilà.
C'est le président du Conseil italien. C'est le premier ministre italien.
Et avant ça, il était?
Il était président de la Banque Centrale Européenne.
Et juste
il
avant...
a sauvé l'Europe de la récession en disant « whatever it takes, quoi qu'il fasse, je défendrai ».
C'est l'inventeur de l'expression « quoi qu'il en coûte ».
Et en fait, c'est l'inventeur de l'expression « quoi qu'il en coûte ».
Et c'est aussi un banquier passé par Goldman Sachs.
Voilà, et il nous a sauvé, mais il nous a sauvé de la récession.
Ah non, mais je ne critiquais pas.
Alors, que dit Draghi? Alors, quelle est la différence? Est-ce que je peux expliquer Draghi en 2 minutes?
Mais oui, bien sûr, bon, au contraire, alors, c'est passionnant.
Voilà. Bon, qu'est-ce que disent Draghi et puis Macron? Ils disent, avant, on disait, voilà, 3%, si on fait mon déficit dépasse 3% du PIB, je suis dans le rouge. D'accord? Quelles que soient les dépenses. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ils disent, non, on ne peut pas mettre sur le même plan des dépenses qui augmentent la croissance, qui s'attaquent aux défis climatiques, sur le même plan que d'autres types de dépenses. Il ne faut pas les compter de la même manière. Et donc, il faut regarder la composition de la dépense publique et la gouvernance de la dépense publique. C'est révolutionnaire. C'est ça qui va nous permettre d'investir dans l'école, dans les jeunes, dans l'environnement. C'est parce qu'on a cette nouvelle approche, qu'on ne met pas sur le même plan les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement dans la croissance et dans l'environnement et dans les jeunes. Et ça, je crois que c'est vraiment la nouveauté. C'est ça qui fait qu'on peut avoir un prochain quinquennat qui sera celui de la croissance, de l'environnement et des jeunes.
Et je crois que c'est vraiment un changement de paradigme. C'est là qu'il faut... Vous voyez, on ne peut pas regarder la France avec les lunettes qu'avait Fillon en 2017 ou d'autres, où on disait, où la RGPP, la Revue Générale des Politiques Publiques, où on mettait toutes les dépenses sur le même plan et on faisait du rabot. Non, il faut repenser avec manière très novatrice. Qu'est-ce qu'a fait Draghi ? Il avait des fonds européens. L'Italie est endettée. Il a utilisé les fonds européens pour emprunter davantage. Et avec cet emprunt, il a investi dans l'éducation, dans le digital, dans la santé, en même temps poursuivant la réforme de l'État. Ça, c'est novateur. Ça, c'est la nouvelle manière de faire les choses.
Et c'est une vraie pratique de banquier d'avoir un effet de levier quand on emprunte pour pouvoir lever encore plus d'argent. Mais la question de la dette, on y viendra tout à l'heure. Avant, oui. C'est vrai. Natacha Polony, puis Gilles Finkelstein.
Pour prolonger cela, on peut en effet se réjouir qu'enfin le discours majoritaire est basculé et ne soit plus sur cette règle absurde des 3%. Enfin, je veux dire, c'est pas faute que certains l'aient dit depuis longtemps. Simplement.
Certains, c'est certaines, en l'occurrence, vous vous autocitez.
Non, pas du tout. Mais, parce que il y a plusieurs personnes qui alertaient depuis longtemps, mais qui alertaient aussi sur un point qui me semble essentiel. C'est qu'en même temps qu'on avait cette espèce d'obsession de la règle des 3%, il y avait aussi dans les élites françaises, cette idée que la France allait se spécialiser dans la finance, l'industrie bancaire même, et le tourisme, les emplois de service, etc. Nous sommes en train de payer cela, me semble-t-il. C'est-à-dire que si on regarde, en fait, l'évolution des emplois en France, on voit combien, justement, le Covid a frappé de plein fouet ces emplois qui étaient des emplois de service, notamment le tourisme, et qui nous a mis par terre et qui nous a rendus dépendants. Et les emplois industriels sont ceux qui apportent le plus de valeur ajoutée. Voilà. Donc nous sommes un pays, en gros, il y a eu deux records là dans les 15 derniers jours, 7% de croissance et un déficit commercial de 84,7 milliards. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a quelques-uns qui créent de la valeur et les autres qui consomment pas cher et importés. La question, c'est comment on sort de ce modèle ? Comment on réindustrialise ? Comment on recrée des emplois à fortes valeurs ajoutées ?
Alors, Natacha, il y a la mauvaise approche et la bonne approche. La mauvaise, c'est de faire du protectionnisme et d'augmenter les tarifs. Mais ça, malheureusement, c'est une mauvaise stratégie parce que les pays destinataires vont évidemment répliquer. Vous fermez des marchés d'export, du coup, vous allez innover moins. Et du coup, on sera moins capable de reconquérir la maîtrise des chaînes de valeur. La bonne manière, c'est l'innovation. C'est la réindustrialisation par l'innovation. Il faut réinvestir des zones. Vous savez, par exemple, on regarde en plein de secteurs. La France était les meilleurs innovateurs dans la plupart des secteurs industriels dans le milieu des années 90. Et il y a eu, à part le nucléaire et l'aéronautique, nos performances en matière d'innovation s'est détériorée partout. Et vous savez, ça annonce toujours de mauvaises performances commerciales, les performances d'innovation, mesurées par les brevets notamment, d'accord ? Par les bons brevets. Et donc, il faut reconquérir la maîtrise des chaînes de valeur. Et on va le faire en poussant l'innovation. Et c'est pas juste en relocalisant des entreprises, c'est en poussant des jeunes pousses, des nouvelles entreprises qui vont arriver, qui vont se développer dans une série de domaines.
Autrement dit, ça sert à rien.
Industriel intelligent.
Ça ne sert à rien de fabriquer des masques en France.
Alors, faut regarder qu'est-ce que je fabrique en France.
Non, mais je plaisante parce que nous portons tous des masques, en l'occurrence, et ils viennent de Chine. Et ça a été une question au cœur de la souveraineté, à part celui de Natacha, mais la plupart.
D'abord, peut-être
que nous portons.
Il y a certaines choses.
Il y a Gilles qui vérifie le sien.
L'idée n'est pas de...
Au mépris de toutes les règles sanitaires, bravo Gilles.
L'idée n'est pas de tout fabriquer en France et de faire ce qu'on appelait de la substitut d'importation. C'est de reconquérir la maîtrise des chaînes de valeur, comme les Allemands l'ont fait depuis en fait un certain temps. Les Allemands, ils produisent beaucoup chez eux, mais aussi ils se reposent sur ailleurs pour produire. Et ils ont aussi de la délocalisation en partie. Mais l'idée, c'est par l'innovation, de réinvestir des domaines où nous étions les meilleurs, et pour pouvoir reprendre notre rang mondial. Et c'est par l'innovation que ça va se faire, parce que c'est parce qu'on sera meilleur et plus productif que les autres. Et donc, il faut une politique industrielle. Donc, il faut réinventer la politique industrielle. Il y a le plan 2030. Donc, on a...
Le plan présenté par Emmanuel Macron.
Voilà. Alors maintenant, il faut gouverner cette politique industrielle. Et là, je voudrais monter une idée que je voudrais pousser. C'est qu'un investissement doit être transformant. C'est très bien de sélectionner des secteurs. Mais il faut faire de la politique industrielle autrement qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, la manière dont on l'a faite, c'est qu'on se met d'accord avec des grosses firmes, avec des grosses entreprises, et on les laisse traiter avec leurs filières. C'est vraiment la manière très colbertiste. Il y a la manière DARPA, Defense Advanced Research Project Agency.
C'est américain.
C'était l'agence américaine créée dans les années 50 sur l'espace et la défense. L'argent vient d'en haut, mais ensuite on nomme des chefs d'équipe et eux, eh bien, ils suscitent des projets concurrents. Donc c'est un mélange de haut en bas et de bas en haut. C'est une politique industrielle qui est compatible avec la concurrence. Et ils ont refait ça avec la BARDA. La BARDA, c'est la Biomedical Advanced Research and Development Authority. C'est de là que sont venus Pfizer, Moderna, Johnson.
C'est pareil. C'est toute l'innovation dans le domaine de la biologie et de la pharmacie pour que tout le monde
s'y retrouve. Voilà, exactement. Et l'énergie, c'est-à-dire que vous faites une politique industrielle, mais vous la faites d'une manière qui préserve la concurrence, qui ne repasse pas juste sur quelques grands champions et leurs filières, mais c'est une manière totalement nouvelle de gouverner la politique industrielle.
Philippe Aguillon, moi,
quelques minutes avant le journal de 13h, Natacha Pigil.
Une question sur quelque chose que je ne comprends pas. Vous commencez en disant « le protectionnisme, c'est pas bien et c'est la mauvaise solution ». Je veux bien le comprendre. À ceci près qu'il y a un économiste qui s'appelait Friedrich List qui a développé un concept qui est le protectionnisme de l'enfance. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire que le libre-échange, quand vous voulez justement faire des jeunes pousses, comme vous le disiez, ça ne marche pas parce que, évidemment, si vous mettez en place un libre-échange et que les autres pays sont plus avancés, vos jeunes pousses, elles n'émergent jamais. Elles se font ratiboiser. Oui. Donc, il faut à un moment les protéger. Et deuxième élément,
c'est une théorie, mais Natacha, on faisait de l'économie comme ça avant. Mais vous savez, maintenant, la manière dont on fait l'économie... Non, mais très sympathique, je les adore, mais je vais vous dire quelque chose.
J'en suis ravie, mais pense que c'est pas le sujet.
C'est que l'économie, maintenant, c'est de l'éthéorie et c'est de l'empirique. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de théories, mais maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'on on confronte les théories avec les données. Et on sait que maintenant, les stratégies protectionnistes de tarifs se traduisent exactement par des restrictions de marché d'exportation. Et à l'arrivée par moins d'innovation.
Je ne parle pas de protectionnisme de tarifs. Il me semble que vous êtes pour la taxe carbone aux frontières de l'Europe. C'est un protectionnisme environnemental. Alors, et pourquoi différent. On peut le faire sur l'environnement et qu'on ne le fait jamais sur la protection sociale et que là, on peut aller dans des pays qui n'ont aucune
protection sociale. Natacha, j'ai la réponse. J'ai la réponse. Oui, mais sur la taxe carbone aux frontières, c'est pour empêcher un truc très précis qui est les paradis de pollution.
C'est-à-dire,
il y a des pays qui, en fait, quand certains pays deviennent vertueux, disent aux entreprises de ces pays, venez chez nous, vous polluez autant que vous voulez et vous réimportez les produits dans ces... Donc, ça, c'est un phénomène des paradis de pollution. Pour lutter contre ça, la menace des tarifs aux frontières carbone sont une bonne chose. Mais il faut faire très attention quand on le manie. Il faut le manier avec précaution sur certains inputs en particulier, parce que sinon, on tombe très facilement dans un vrai protectionnisme.
Input, donc, traduction, Philippe Aguillon.
Il faut le faire, mais vraiment avec dosage, et pour s'attaquer à ce problème des paradis polluants.
Input, traduction.
C'est les entrants de production.
Gilles.
Oh là là, désolé pour mon franglais.
Oui, je voudrais revenir et pour essayer de bien comprendre votre position sur la dette, parce que c'est un enjeu qui est absolument déterminant.
Oui.
Un des effets de la crise du Covid a été que la sensibilité de l'opinion aux questions de dette et de déficit a beaucoup diminué. C'est aujourd'hui un sujet marginal dans la hiérarchie des préoccupations. Et dans le même temps que la dette publique a augmenté dans des proportions importantes. On est aujourd'hui dans une situation où chacun mesure qu'on a des besoins d'investissement qui sont considérables. Voilà. Ils sont considérables pour répondre à la crise climatique. On parlait tout à l'heure des investissements à réaliser en matière d'énergie. C'est vrai aussi des investissements à réaliser pour faire en sorte qu'on prenne moins la voiture et plus le train. C'est vrai pour la rénovation des logements. Vous parliez des services publics. C'est vrai de l'éducation. C'est vrai de la santé. C'est vrai aussi, on en parle peu, de l'enseignement supérieur ou de la justice. Donc, absolument. Il y a d'énormes besoins d'investissement. Pour être précis, est-ce qu'on est dans une situation dans laquelle il est possible de s'endetter davantage ou pas, et quel type d'investissement ?
Alors, je vais vous expliquer de manière très simple. Quand investir davantage dans une éducation bien gouvernée, on reviendra sur ce que c'est une bonne gouvernance de l'école, ou dans une politique industrielle bien gouvernée, je viens d'en parler maintenant, ça vous produit de la croissance. Qu'est-ce que la croissance vous permet de faire ? La croissance permet de rembourser plus facilement votre dette, vous voyez ? Parce que, en fait, votre solvabilité ne dépend pas juste de votre niveau de dette actuel, il dépend du différentiel entre le taux de croissance, qui est le taux de croissance du PIB, et le taux d'intérêt, qui est le taux auquel votre dette augmente. Et pour que le ratio entre la dette et le PIB diminue, il faut que la différence entre le taux de croissance du PIB et le taux d'intérêt soit grand. Donc quand vous mettez...
J'essaye de comprendre, soyez plus simple, Philippe Aguillon.
Quand vous investissez dans des politiques qui augmentent le taux de croissance, vous augmentez à terme votre capacité à rembourser votre dette publique. Donc c'est du gagnant-gagnant, comme dirait quelqu'un, d'accord ? Donc, si j'investis dans éducation, politique industrielle, avec une bonne gouvernance et des bonnes performances, on viendra là-dessus, eh bien, j'augmente mon taux de croissance à long terme et donc ma capacité de rembourser ma dette à long terme. C'est ça la doctrine Draghi-Macron. C'est ça l'idée. Vous comprenez ? Donc
la doctrine Aguillon. Non, mais en l'occurrence, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on sait, par exemple, que la France consacre une grande partie de son produit intérieur brut, 7%, à l'éducation, et que les classements sont internationaux, sont ravageurs. C'est pas Natacha qui va me contredire, on va en parler. Mais c'est très étonnant, Philippe Aguillon, parce que depuis le début de notre débat, vous parlez de demain, vous parlez du futur, et c'est quelque chose, je ne sais pas si le public qui est avec nous ici à Valence s'en rend compte. Ben oui, mais c'est quelque chose.
Aucun candidat ne parle de demain.
C'est ce que j'allais vous dire.
C'est hallucinant. On parle que de...
On a débattu de notre passé, on a débattu d'énormément de figures.
Mais c'est de demain qu'il s'agit, là, cette élection présidentielle. C'est de demain.
Merci de le rappeler. C'est intéressant de parler d'éducation.
Donc il faut avoir une doctrine.
Innovation.
Il faut avoir une doctrine de la dépense publique. Il faut avoir une doctrine où je mets l'argent. Et puis, ça ne veut pas dire que c'est moins rigoureux que Maastricht. L'idée, c'est de dire, quand j'investis, qu'il faut regarder la gouvernance de la dépense publique et la performance de la dépense publique. Donc, c'est un exercice beaucoup plus exigeant. Monsieur Draghi, il a dû négocier avec la Commission européenne pour faire son plan. Et ils ont regardé, oui, mais en même temps, tu dois continuer la réforme de l'État. L'école, comment tu vas investir? La politique industrielle, comment tu vas faire ça? Et on regarde de très près. Et c'est révolutionnaire, ça, vous voyez?
C'est révolutionnaire, mais l'État a malgré tout aidé des entreprises, et on le comprend, des entreprises qui connaissaient des difficultés à traverser la crise, et des entreprises qui ne sont pas vertueuses sur le plan de l'environnement. C'était des entreprises qu'on a aidées essentiellement pour protéger l'emploi et pour éviter des faillites en série.
On était obligé pendant la pandémie, on était obligé de faire.
Là, on en sort. Maintenant, on peut penser au monde d'après.
Alors, on va pas sortir d'un coup. C'est pas que d'un coup, on va dire, on stoppe l'aide aux entreprises, puisqu'on n'est pas encore totalement sorti de la pandémie. Mais il va falloir petit à petit se projeter dans le monde d'après et de dire, oui, l'aide, elle est pas inconditionnelle. Il faut regarder les performances en matière d'environnement, en matière de gouvernance, etc. Faire une vraie politique industrielle avec une bonne gouvernance. Mais c'est ça le concept. C'est qu'au lieu de dire, je mets tout dans le même sac et c'est 3% et puis pas plus, je dis, voilà, je regarde la gouvernance de votre dépense. Par exemple, les écoles, je vais être très concret. Par exemple, il faudrait créer des externats d'excellence. Je veux dire, pour ça, on a des performances PISA qui se des performances scolaires qui se dégradent à l'école.
Mesure le niveau général des élèves à 15 ans.
Absolument. Je veux dire, la France, faut quand même savoir, pour l'éducation, on consacre près de 7% du PIB à l'éducation. On est 26e dans les classements PISA qui mesurent le niveau général des élèves à 15 ans. 20% des élèves français qui rentrent en 6e ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux, et on est le pays de l'OCDE où les résultats scolaires sont le plus fortement corrélés à l'origine socio-économique. Il faut sortir de là. Alors,
aviez eu une expression, vous avez dit, il y a des Einstein perdus.
Il y a des Einstein perdus.
Mais alors, expliquez-nous les externats d'excellence, par exemple.
Alors, les externats d'excellence, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de dire, il y a des endroits, notamment, où les parents ne peuvent pas pleinement aider les enfants à faire leurs devoirs, où ils n'ont pas le bon environnement. Il faut que dans ces endroits-là, particulièrement, les devoirs puissent être faits à l'école, qu'il y ait des tuteurs qui suivent les élèves, comme en Finlande, vous avez des tuteurs, donc c'est pas juste moins d'élèves dans les classes, c'est moins d'élèves dans les classes, des professeurs de bonne qualité qui se recyclent régulièrement, et des moyens que, par exemple, mettre l'accent sur les matières de base, évidemment, les devoirs faits à l'école, les tuteurs, de façon que, les enfants qui n'ont pas des parents qui peuvent les aider ou des conditions de logement qui sont propices à leurs études, ne soient pas trop pénalisés par rapport aux autres. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Pour pouvoir faire ces externats d'excellence, il faut une certaine autonomie des chefs d'établissement. Mais pour faire ça, il faut payer les professeurs mieux. C'est évident qu'on ne paye pas assez les enseignants. Mais ils doivent être mieux payés dans le cadre d'un nouveau contrat pédagogique qui inclut cette assistance renforcée aux élèves en difficulté, etc. Donc je crois que là, il y a une vraie révolution, mais c'est toujours pareil. Je mets de l'argent dans l'éducation, mais avec une gouvernance nouvelle, et je regarde les performances. Si les performances PISA ne sont pas au rendez-vous, ou d'autres mesures de performance, alors à ce moment-là, on revoit le contrat avec le chef d'établissement.
Parler d'éducation. Natacha, d'un mot avant de retrouver le journal de Frédéric Barrère.
On a bien compris que la question de l'autonomie des établissements scolaires va être une question en fait sous-jacente. Oui. Elle n'est pas encore abordée dans cette campagne. On sent très bien que ça fait partie du programme notamment d'Emmanuel Macron pour un second quinquennat. La question est de savoir en fait comment on fait en sorte que ça n'aboutisse pas à une libéralisation de l'ensemble du système, mais qu'au contraire ça soit au service de plus de république, de plus de cohésion. décisions. J'ajoute une chose, la France dans les enquêtes PISA est surtout le pays où la discipline est la plus compliquée, la plus mauvaise en classe, et je pense que c'est lié, et là aussi, la question de du rétablissement du calme et de la possibilité d'enseigner.
Alors, comme dans, cette pièce, Philippe Aguillon, je suis le professeur aujourd'hui, et donc, alors que vous êtes professeur au Collège de France, je suis le professeur du grand face-à-face et je suis sévère. En l'occurrence, on va revenir sur cette question de l'éducation. On va parler aussi des retraites parce qu'il est aussi question de notre modèle social et de cette innovation, de ce nouveau capitalisme qui est en train de se dessiner et dont on peut se demander très sincèrement s'il sera créateur d'emplois, comme il a pu l'être, par exemple, par le passé. Le grand face-à-face XXL continue depuis Valence et on se retrouve juste après le journal de 13h avec vos questions, vos interventions. À tout de suite.
Le Grand Face à Face, émission spéciale en public à Valence. Ali Badou.
Le Grand Face à Face XXL à Valence ce samedi au Palais des Expositions Jacques Chirac en public. Et merci d'être venus aussi nombreux pour participer à cette émission. Des micros vont tout de suite circuler dans la salle pour vous permettre de participer au débat, d'interroger Gilles, Natacha évidemment et notre grand invité, l'économiste Philippe Aguillon. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et nous parlions de la jeunesse, de l'éducation. Évidemment, Philippe Aguillon, impossible de parler du modèle social sans parler de la réforme des retraites. Et est-ce qu'il y a un lien? Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien que vous faites entre la question des retraites et la question de la jeunesse, la question de la préparation du monde de demain?
Ben, voilà, je pense que, en fait, si vous voulez, les jeunes ont payé un lourd tribut avec la Covid. Voilà. Par exemple, déjà en décembre 2020, suite aux deux premiers confinements, plus d'un jeune sur six avait interrompu ses études. Près de 31% des étudiants présentaient des signes de détresse psychologique et plus de 50% des jeunes sondés se déclaraient inquiets pour leur santé mentale. Il est juste qu'à présent, nos aînés fassent un geste en faveur des jeunes. C'est pour ça que, en fait, je propose un revenu universel jeune, mais qui est une jambe insertion, qui est déjà commencé à être mise en œuvre, une jambe apprentissage, mais une jambe étudiante, qui, elle, n'est pas là. Moi, j'ai ma dentiste, elle a étudié, elle est une excellente dentiste, mais pour pouvoir suivre ses cours et bien réussir ses examens, elle a choisi de pas travailler, de prendre des emplois en plus de nuit, etc. Elle devait sauter des repas. Voilà. Donc, moi, je veux pas d'un monde comme ça. Je veux pas d'un monde où les jeunes aient besoin pour étudier de sauter des repas. Alors, pour certains idéologues ou politiciens, toute allocation vaut assistanat et pousse l'individu à la paresse. Et moi, je pense que c'est une vision fausse. Je pense qu'il faut penser. Je crois dans l'autonomie et le co-investissement. L'idée du revenu, c'est de donner aux jeunes l'autonomie, les moyens de penser leur avenir, et c'est un co-investissement entre l'État et eux dans leur capital humain. Et c'est ça l'idée. Et là, alors les Danois ont fait quelque chose de très intéressant. On n'est pas obligé de copier exactement ce qu'ils ont fait. Dès qu'on quitte le foyer familial, qu'on n'est plus déclaré sur la feuille d'impôt des parents, on reçoit l'équivalent de 800 euros par mois. C'est-à-dire, ça serait l'équivalent pour nous de l'APL plus 500 euros. Mais il faut réussir ses examens. Alors, on peut la première année hésiter, changer, mais il y a un contrat de réussite aux examens.
Mais au Danemark, Philippe Aguillon, c'est financé par l'allongement de la durée des cotisations pour les retraites.
Alors, c'est financé de
différentes façons. Alors, est-ce que, justement, tout le monde serait prêt à le faire ici en France?
Donc, déjà, je décris mon revenu. Donc, déjà, c'est pas un revenu pour ne rien faire. C'est un revenu. Il faut réussir ses examens. Si on est en apprentissage, il faut être en apprentissage. Donc, c'est toujours un revenu contre quelque chose. Mais on peut décider d'être étudiant, puis en apprentissage, puis insertion. Donc, je crois que c'est vraiment dire à tout jeune qui quitte son foyer et qui n'est plus déclaré sur la feuille d'impôt des parents, il a cette autonomie et ce co-investissement. Alors, donc ça, je crois que c'est une grande réforme, elle coûte à peu près 7 milliards d'euros pour être mise en œuvre. Donc il faut trouver ces 7 milliards d'euros. D'accord ? Alors je pense qu'effectivement il y a le débat sur la durée de cotisation des retraites. Et moi je pense que ça fait partie de l'approche Draghi, ce que j'appelle l'approche Draghi, en même temps qu'on investit dans les jeunes, dans l'éducation, dans la politique industrielle, etc. Eh bien il faut poser la question des retraites. C'est vrai que, à mon avis, il va falloir discuter, en tout cas, de retarder le départ à la retraite. Alors comment on retarde le départ à la retraite ? Une manière, c'est d'encourager
sauver l'emploi des seniors par les entreprises. Donc ça, c'est tout un pan. D'accord. Et puis il y a également le débat sur la durée de cotisation. Mais moi, mon approche à la durée de cotisation, c'est qu'évidemment, si on a commencé plus tôt, on part plus tôt. Et également, la pénibilité doit jouer un rôle fondamental. C'est-à-dire que je ne peux pas compter les travaux pénibles comme les travaux qui ne sont pas pénibles. Mais je pense que ce débat sur la durée de cotisation, en tenant compte donc de l'âge où on a commencé à travailler et de la pénibilité, doit être également engagé comme partie prenante du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de mon approche d'ensemble au budget. J'investis dans les jeunes, j'investis dans l'éducation, mais je dois quand même mettre la question des retraites sur le tapis.
Et justement, la parole à un étudiant qui est avec nous dans le public ici à Valence. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de participer au grand face-à-face. Yanis Tienlay, je le prononce bien, vous êtes étudiant?
C'est bien ça. Je suis étudiant du coup à la fac de Valence en double licence droit et économie. Et du coup, justement, je voulais vous poser une question sur les thèmes que vous avez abordés. Vous parlez de donner un revenu pour les étudiants, mais est-ce que juste, entre guillemets, donner de l'argent, ça va vraiment pouvoir aider les étudiants ou pas? On sait, par exemple, vous en parlez tout à l'heure des prix des logements. Un étudiant, il va vouloir faire une fac qui est renommée, il va vouloir aller à Paris. Est-ce que un revenu, ça peut suffire à se payer son logement à Paris? Ou est-ce qu'il faut faire en sorte que tout le monde puisse avoir un logement CROUS, même si on sait que c'est utopique, donc...
Alors, c'est vrai que vous posez une très bonne question. Je pense qu'il faut d'abord autant que possible offrir des logements supplémentaires, et là où ça peut pas être fait, ça doit évidemment compléter. Alors là, il y avait eu des... Je sais que le ministère de la Recherche avait réfléchi un peu cet aspect-là, et elle avait produit une note que personne n'a vue, mais que moi j'ai vue. Voilà. C'est dommage qu'elle ait pas été mise en œuvre, mais elle le sera peut-être un jour. Et il regardait ce problème-là. Donc l'idée était de dire, eh ben, dans les endroits où les loyers sont plus chers, où il n'y a pas d'accès, évidemment, on ajouterait à ces 800 euros ce qu'il faut pour que les étudiants puissent être logés.
Gilles.
Si on essaie de sous-titrer votre proposition de revenu universel d'engagement, on voit que pour le coup, elle est un peu décalée par rapport à ce que propose Emmanuel Macron. Elle est à la fois sur le plan philosophique, où cette idée qu'une allocation, ça dévie rapidement vers l'assistanat était quand même assez présente, et elle l'est beaucoup sur le dispositif qui est plus ambitieux. La question que je voudrais vous poser, elle est...
Vous n'avez pas vu le programme encore.
Elle est plutôt...
Vous n'avez pas vu son programme.
Non.
Qui sait ? Peut-être que ça sera dans son programme.
C'est possible.
Vous
ne
savez pas.
En revanche, j'ai écouté et j'ai vu précisément ce qui a été fait depuis 5 ans.
S'il est candidat en plus.
Voilà.
On ne sait pas.
Oh, c'est mignon.
Donc, wait and see, comme on dit en anglais.
Je vois aux réactions du public que le suspense sur la candidature d'Emmanuel Macron
est très relatif.
Est assez relatif.
Sur son programme, s'il se présente.
Mais ma question, Philippe Aguillon, elle est sur la contrepartie sur les retraites. Vous dites, il faut, les jeunes ont fait beaucoup d'efforts, il faut que les aînés en fassent aussi. En l'occurrence, c'est moins les retraités que les actifs, hein, si on modifie le système de retraite. Mais quel est précisément cet effet? Est-ce que c'est, parce que c'est exactement le débat qui va être celui de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il faut augmenter l'âge légal de départ à la retraite, le pousser de 61 et jusqu'à combien, ou la durée de cotisation? Et question complémentaire, il y avait une réforme systémique des retraites qui a été engagée, chacun s'en souvient, qui n'a pas abouti. Voilà, donc voilà, vous dites...
J'ai cru, j'ai eu tort.
D'accord.
Voilà, d'accord. Donc d'abord sur les retraites, effectivement, je pense moi beaucoup plus en termes de durée de cotisation, parce que je veux pas que quelqu'un qui a commencé à travailler à 17 ans fasse plus que en général, ceux qui commencent à travailler très tôt, c'est dans des métiers plus pénibles, et donc ça fait un transfert net. Si je mets un âge minimum, ça fait un transfert net en fait des gens à espérance de vie plus faible vers des gens à espérance de vie plus forte. Comme je suis un bon social-démocrate, hein, comme vous, ça ne me plaît pas. Donc l'idée, c'est de dire, moi, je veux que ça soit en termes de durée de cotisation. Donc ceux qui commencent plus tôt s'arrêtent plus tôt, et la pénibilité doit rentrer en ligne de compte, bien évidemment. Alors le système à points, j'y ai cru, ça marche pas. En tout cas, chez nous, c'est pas possible. Les gens ne font pas. D'abord, en France, les gens n'ont pas confiance dans la valeur des points. Je vais vous dire une chose. Les enseignants avaient bien raison de pas avoir confiance. Ils ont vu tout de suite qu'ils se faisaient avoir. Moi, j'avais pas vu.
Non, mais donc, on se souvient du moment où ce débat est devenu incompréhensible, Philippe Aguillon.
Alors, les points,
avant les crises du quinquennat, mais c'est vrai qu'on a parlé du système paramétrique systémique.
Si vous voulez,
systémique.
C'est un peu comme la taxe, comme une certaine manière de faire la taxe carbone. Je suis pas du tout contre la taxe carbone, par contre. Mais c'est une en apparence simple, et en fait, c'est très compliqué. Parce que, par exemple, les enseignants, typiquement, ils avaient des petites primes et des petits salaires. Ils se rattrapaient sur les retraites. Égaliser leur retraite avec celle des autres, c'est qu'en fait, l'égalité crée de l'inégalité. Vous voyez tout de suite, quoi. Donc, en fait, pour pouvoir mettre en œuvre cette réforme à point, il fallait réformer plein de professions en amont. Et ça devenait une usine à gaz.
En tout cas, ce qui est passionnant, c'est que vous faites le lien, justement, entre ce revenu d'engagement pour les jeunes, donc entre la question de la jeunesse, la question de l'éducation, celle des retraites. Et on va prendre une question dans le public. Bonjour, monsieur Jean-Yves Juban.
Oui, bonjour, merci.
Merci d'être avec nous.
Merci. Je suis directeur d'un IUT, l'IUT de Valence, qui dépend de l'université Grenoble-Alpes. Et donc, je voudrais commencer par un témoignage d'abord sur l'université à Valence, sa présence, sa réussite. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai une question à vous poser. Alors, l'université de Grenoble, à Valence, c'est 4400 étudiants sur les 53 000 que représente l'université de Grenoble. Donc c'est un effectif non négligeable, de plus de 8%. Ça montre aussi qu'une université de rang mondial comme la nôtre, l'université de Grenoble-Alpes, se préoccupe de ces territoires et met les moyens qu'il faut pour que ces territoires puissent se développer. Il y a plus de 50 formations différentes. On a eu le témoignage d'un étudiant qui est en faculté d'économie et de droit. Il y a l'IUT, il y a des formations qui portent sur des licences professionnelles, des masters et des diplômes d'ingénieurs. C'est 62% des étudiants qui sont rentrés chez nous en 2019 et 2020, qui avaient eu leur bac en Drôme et en Ardèche, contre moins de 40% pour Grenoble, qui venait de l'Isère. Donc il y a un ancrage territorial fort. Et un chiffre important, c'est 45% de nos étudiants sont des boursiers. Le taux national est de 35%. Donc ces étudiants, en termes de réussite, réussissent tout aussi bien que les autres et poursuivent leurs études de manière tout aussi correcte que les autres. À titre d'exemple, je parle de mes étudiants à l'IUT de Valence. On a un taux de réussite quand on prend les étudiants qui rentrent en première année et qu'on regarde en 2 ou 3 ans pour l'instant leur réussite au DUT, qui devient le bachelor maintenant, donc sur 3 ans, qui est de 85%. Je dis bien sur les étudiants qui sont là le 1er septembre de la première année. On regarde 2-3 ans après, 85% ont leur diplôme.
Bravo.
Donc maintenant j'arrive à la question. Il faut pour ça des moyens. Nous avons été soutenus par notre université, ça c'est des moyens d'État. Nous avons été soutenus par les collectivités locales. Que pourrait faire un président à l'avenir pour maintenir ces moyens, les développer pour que des territoires comme celui-ci puissent se développer et peut-être arrêter cette pratique des appels à projets que vous connaissez bien, monsieur Aguillon, sans doute, à laquelle il faut qu'on réponde pour réussir à avoir de l'argent, alors qu'on demande également, on dit pas non aux appels à projets, on demande également des financements pérennes.
Merci pour votre question, Philippe Aguillon.
Oui, alors moi j'avais produit un rapport sur l'université en 2011. À l'époque, c'était Valérie Pécresse, ministre de la Recherche. Et j'avais montré l'importance des moyens et de la gouvernance. Et ça a donné lieu aux IDEX et à la procédure des IDEX. Voilà. Donc on sait qu'il y a eu des surveys, des études qui montrent qu'effectivement, une université sous-financée, elle peut pas avoir les mêmes performances de recherche qu'une université bien financée. Et la France, on a amélioré un peu par rapport à cette époque, mais on est encore loin de ce qu'on pourrait faire. On peut encore mettre beaucoup plus dans l'université. Alors je sais qu'il y a eu des lois récemment et que donc je ne veux pas du tout négliger ce qui a été fait même depuis 5 ans dans ce domaine, mais je pense qu'on peut faire davantage. Je pense qu'il faut une université bien financée et bien gouvernée. Parce que si vous voulez, si vous pouvez pas attirer, si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez aussi bien gouverner que vous voulez, vous n'avez pas les moyens d'attirer les bons enseignants. Alors vous parliez des agences à projet, vous parliez de l'ANR, mais l'ANR c'était utile de l'avoir aussi. Je dis pas qu'il faut que l'ANR. L'ANR c'est l'équivalent. Les Américains ont inventé la National Science Foundation. Et au niveau européen, il y a le Conseil de recherche européen. Le problème de l'ANR, c'est qu'elle est sous-financée.
Tout le monde ne connaît pas l'ANR.
L'ANR c'est l'Agence nationale pour la recherche, et on soumet des projets. Et les projets sont acceptés ou pas, il y a des jurys. Le problème, c'est comme il y a tellement peu d'argent dans l'ANR, dans l'Agence nationale pour la recherche, la plupart des gens ne l'obtiennent jamais. Donc les référés, les gens qui acceptent d'être jurys à l'ANR, dans certains domaines comme l'économie, ne sont pas au niveau la plupart du temps. D'accord ? Donc, si vous voulez, la pauvreté génère un manque de qualité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je pense que pour fonctionner, une agence de projet doit être bien mieux dotée. Le problème de l'ANR, c'est pas tant qu'elle existe, c'est qu'elle est sous-dotée. Il y a l'équivalent au niveau européen qui est le Conseil de recherche européen qui lui a donné de très bons résultats parce qu'il lui est bien doté. Alors, est-ce qu'il faudrait pas, par exemple, d'abord beaucoup mieux doter l'ANR, l'agence française, et puis dire, par exemple, si on est admissible à un projet conseil de recherche européen, automatiquement, on obtient l'ANR, parce que, évidemment, les jurys qui opèrent sur les projets ERC sont, en général, de meilleure qualité que les jurys qui opèrent, en tout cas dans mon domaine, qui opèrent au niveau de l'ANR. Les universités devraient avoir plus. Mais c'est toujours l'idée d'investir plus, mais avec de la bonne gouvernance et en regardant les résultats.
Oui, alors, en quelques mots, l'un des problèmes que nous avons en France, c'est l'articulation entre le secondaire et l'université. Depuis des années, des professeurs d'université tentent d'alerter sur le gouffre du niveau, en fait, notamment dans les études scientifiques, entre la formation, les lycéens et ce qui est demandé à l'université. Ça, c'est un premier point, c'est-à-dire que, en fait, beaucoup se joue en amont, dans l'école primaire et secondaire. Et on voit bien, par exemple, les débats qu'il y a eu récemment sur la volte-face de Jean-Michel Blanquer sur la réforme du baccalauréat, l'abandon des mathématiques, d'abord pour une majorité de lycéens, et puis tout à coup, on s'aperçoit que c'est quand même problématique que des lycéens qui veulent aller ensuite faire de l'économie ou des sciences sociales n'aient absolument pas de formation mathématique. Deuxième point, ça fait des années qu'on n'a pas réfléchi, mis sur la table, l'organisation du système du supérieur en France. C'est-à-dire qu'il faudrait, en fait, refaire ce qui a été fait en 1958, tout remettre à plat. C'est-à-dire que le déséquilibre entre les grandes écoles, des filières qui marchent, les IUT sont des filières qui marchent, ce sont des filières dont on sait qu'elles sont efficaces. À côté de ça, on sait qu'il y en a d'autres
qui,
aujourd'hui, ne sont pas pensées. C'est-à-dire que depuis des années, depuis des décennies même, on ne réfléchit pas à ce que c'est que l'université. Quelle est sa nature? Ce temple du savoir, ce temple de la préservation et de la transmission du savoir, comment l'organiser avec des filières qui soient des filières professionnalisantes et des filières qui vont permettre la recherche. C'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre. Ça ne peut se faire qu'avec des financements, vous le disiez, mais les financements, ils nécessitent que l'État ait suffisamment de moyens pour investir dans le régalien. On le fait plus depuis 20 ans, tout simplement parce que tout l'argent, enfin l'État en fait, ne gagne pas assez, à cause du chômage de masse, à cause des pré-retraites, etc., de tout le dispositif lié à la désindustrialisation. Et donc, on rogne petit à petit. Mais en plus, il n'y a aucune réflexion de fond. Et dans cette campagne, il n'y a toujours rien là-dessus.
Alors, il y avait quand même eu un programme...
Un mot, Philippe Aguillon, avant de passer à un prochain dossier.
Quand il y avait eu les universités d'excellence, il y avait l'idée de dire, mettons dans le même ensemble des IUT, des grandes écoles et des départements universitaires avec des passerelles, voyez.
Oui, bien sûr. J'ajoute les campus des métiers. Les campus des métiers, c'est fondamental. Bon, voilà. J'ajoute le fait.
Il y avait la deuxième chose, la deuxième idée, Natacha. C'est l'idée, voyez, par exemple, ça, ils font ça dans certains pays et je trouve que c'est une bonne idée. La propédeutique. Nous avions, nous, la propédeutique. Je trouvais que c'était bien que les premières années.
De préparation.
C'est de la préparation. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas tout de suite ce qu'on va faire. Et on prend plusieurs matières et on essaye certaines, on se rabat sur d'autres. Moi, je trouve que l'idée de rétablir la propédeutique deux années on fait à ce moment-là la sélection par l'orientation avec de la propédeutique au départ. Je pense que ça, c'est des pistes. Mais à chaque fois, investissement, on transforme. Il faut que tout investissement public soit transformant.
Alors, justement, on va donner la parole dans un instant dans le public parce qu'on va ouvrir un nouveau chapitre et je pense qu'il est important puisque c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé, le dossier de l'innovation. Et je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'avec la crise et la Covid, il y a eu une accélération de l'histoire, le télétravail, l'intelligence artificielle, la robotique. Vous-même, Philippe Aguillon, vous êtes découvert une passion pour Zoom. Alors, vous êtes probablement l'un des seuls, en tout cas, à aimer les conversations sur Zoom. Là, en l'occurrence, moi, j'aime ce contact chaleureux où on est près du public et où on peut être à hauteur de discussion les uns avec les autres. Est-ce que vous êtes certain que cette nouvelle économie, est-ce qu'elle est en rupture avec le capitalisme qu'on connaissait avant, et est-ce que c'est de nature à créer des emplois? Qu'est-ce qui nous garantit que ce monde digitalisé, numérisé, créera des emplois comme hier?
Eh bien écoutez, aucune garantie. Tout dépend. Vous savez, la prospérité ou ce que devient une société, c'est le résultat de révolutions technologiques et de changements institutionnels. Et si les changements institutionnels ne s'opèrent pas ou ne s'adaptent pas, eh bien la même révolution technologique peut conduire au pire. La révolution des technologies de l'information aux États-Unis, on pensait que ça allait doper la croissance. En fait, il y a eu le phénomène de stagnation séculaire, dont Robert Gordon parle très bien. Parce qu'en fait, il y a eu l'émergence de des GAFAM, de grosses entreprises, qui au début, quand elles se sont développées, ça a dopé la croissance américaine, mais après, elles se sont mises à inhiber l'innovation des autres. Et elles sont comme des espèces d'objets tentaculaires. Parce que la politique de concurrence américaine ne s'est pas adaptée à l'ère du digital. Donc la même révolution technologique, selon qu'on a les politiques de concurrence adaptées ou pas, ça peut vous donner plus de rente et moins de croissance au lieu de vous donner plus de croissance. Mais la même chose sur l'éducation. Je veux dire, il faut que l'éducation accompagne, parce que sinon, ça va être de la précarité que vous générez. Donc si vous voulez générer, eh bien, une mobilité sociale qualifiante, il faut que vous ayez des gens. Qu'est-ce que fait l'éducation? Qu'est-ce qu'on fait à l'école? À l'école, on apprend à apprendre surtout. On apprend à être flexible. On apprend à s'adapter à une situation. Si vous n'avez pas un bon système scolaire, vraiment qui forme bien, eh bien, à ce moment, la même révolution technologique précarise au lieu de créer une mobilité qualifiante. Voyez, donc, il faut que les institutions s'adaptent à la révolution technologique.
Une question. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue. Céline Magnan, vous êtes chef d'entreprise.
Oui, je dirige un groupement d'employeurs sur Valence. Nous sommes 24 salariés. J'avais deux questions pour vous, vous trois sans doute. On oppose souvent l'économie de marché à l'économie sociale et solidaire. Comment, à votre avis, pourrait-on favoriser un nouveau modèle économique de marché social et solidaire, plus répandu et reconnu? Et ma deuxième question qui est en lien, est-ce que le modèle de société coopérative de type SCOP ou de type SCIC, société coopérative d'intérêt collectif, ne permettrait pas de tendre vers une plus juste utilisation des richesses humaines et des richesses financières? Puisque nous avons un système qui est viable économiquement, simplement il est bâti sur des piliers qui ne sont pas des bases capitalistiques.
Alors, dans l'ordre d'abord, sur l'économie de marché face à l'économie sociale et solidaire.
Alors, je crois beaucoup au triangle entre le secteur des entreprises, c'est-à-dire le marché, l'État et la société civile. Et on a besoin des trois éléments. Et la société civile, c'est les médias, c'est les syndicats, c'est les corps intermédiaires, c'est les associations, c'est les électeurs. On a besoin de ces trois éléments-là. Si on n'a pas un de ces trois éléments-là, ça ne fonctionne pas. Il faut les trois, quoi. Les entreprises innovent, c'est très bien. L'État peut réguler, l'État peut diriger l'innovation, par exemple, vers des technologies vertes avec la taxe carbone ou avec subvention à l'innovation verte. Mais il faut également la société civile, parce que si vous n'avez pas la société civile, il peut y avoir des collusions entre l'État et les entreprises pour faire les mauvaises choses. Et c'est très important que la société civile soit là pour veiller à ce que le contrat social soit respecté. Ce triangle est absolument fondamental. Nous avons la même constitution en France qu'en Colombie. Mais en Colombie, si on est syndicaliste, on se fait assassiner en deux minutes, quoi. Parce qu'il n'y a pas la société civile comme chez nous. Il n'y a pas l'histoire du mouvement ouvrier qu'on a eu chez nous. C'est fondamental. Aux États-Unis, quand il y a eu la guerre de sécession, ça a conduit au 15e amendement pour donner le droit de vote aux Noirs américains dans les États du Sud. Mais il a fallu attendre un siècle et le mouvement des droits civiques aux États-Unis pour que ce droit devienne effectif, devienne réel. Il fallait la société civile, vous voyez. Donc je crois vraiment que le triangle entreprises qui sont innovants, l'État qui peut diriger, influencer sur le changement technique par sa politique industrielle et par sa politique de subvention, et la société civile, ce triangle, à mon avis, est la clé d'une croissance qui sera à la fois plus soutenue, plus juste et plus verte.
Et la deuxième question, de Céline, justement, sur les sociétés coopératives type SCOP, et on va bientôt avoir une autre intervention sur le sujet, ces sociétés coopératives de production ou...
Je crois qu'il faut, on dit toujours, laissons beaucoup de fleurs grandir. Moi, je crois qu'il faut, tout est très bien, toutes les initiatives sont bonnes si elles conduisent à des bonnes choses. Moi, je crois qu'il faut avoir une optique très ouverte. Et il y a plein de modes d'organisation et ils sont intéressants. Après, il y a un darwinisme qui s'opère, ceux qui survivent longtemps, ceux qui moins. Mais je pense que moi, je suis en faveur de tout essayer.
Natacha ?
Il y a actuellement au Pays Basque, côté espagnol, c'est une tradition du Pays Basque, beaucoup, beaucoup de coopératives. Ça fait partie d'un capitalisme d'une autre forme et ça donne des choses très intéressantes. Ça peut aussi donner des horreurs, hein, c'est-à-dire une coopérative comme Baor qui se transforme en multinationale avec le pire des multinationales. Donc le modèle coopératif tout seul ne suffit pas à bouleverser les règles du capitalisme, mais c'est une des dimensions pour inventer, me semble-t-il, une autre voie, si on y ajoute une régulation des appétits. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir ressurgir actuellement le thème de la participation. Quand on pense que c'était le référendum de Gaulle en 69, on se dit qu'on aurait peut-être pu y réfléchir avant. Mais c'est d'autant plus nécessaire que là, quand on regarde l'actualité récente, Total Energy vient d'annoncer 14 milliards de revenus, de bénéfices nets, pardon. Pardon, mais on parlait à l'instant, juste avant, dans cette émission du pouvoir d'achat.
Et de pouvoir d'achat.
Voilà, 14 milliards, c'est beaucoup. Or, on peut se dire, c'est formidable, une entreprise comme ça, ça va ruisseler. Oui, si on se souvient qu'en 2019, Total a versé autant de dividendes, quasiment autant de dividendes à ses actionnaires que de salaire à ses employés. Je ne dis pas d'augmentation de salaire, je dis de salaire, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'a aucun partage. Donc la question de la régulation par l'État est absolument fondamentale. Après, il y a une autre dimension, mais il faudrait qu'on vienne là-dessus. Quand on parle d'innovation, quand on parle de faire naître l'innovation, la question que je me pose assez souvent est de savoir pourquoi j'entends depuis 20 ans parler d'innovation dès qu'on parle de réindustrialisation. C'est-à-dire, on oubliait la désindustrialisation et maintenant qu'on en parle, c'est pour dire il faut des entreprises innovantes, on ne va pas reconstruire des vélos en France. Et pourquoi pas ? C'est-à-dire, la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par l'innovation exactement et qu'est-ce qu'il faut produire ici et pourquoi ? Et il me semble qu'il n'y a aucune raison qu'on se focalise sur ce qui serait les technologies nouvelles, alors qu'il est tout aussi légitime de fabriquer et de fabriquer des choses qui ensuite créent des savoir-faire de la richesse.
Mais l'innovation est dans tout. Natacha, l'innovation, elle est dans nos comportements, dans notre manière d'organiser, dans nos relations. Elle est dans tout, l'innovation.
Tout à fait.
Donc, c'est pas juste l'innovation pour produire des biens industriels.
Non, mais je pense à une conversation avec Bruno Le Maire qui expliquait on va pas reconstruire des grille-pains. Mais pourquoi pas?
Mais par exemple, je veux dire, quand on a découvert des nouvelles manières d'organiser la production, avant on avait des firmes très hiérarchiques. Et puis on a découvert que des firmes où les gens se parlent, où il y a beaucoup plus d'interactions horizontales, ça a été une fantastique innovation organisationnelle.
Non, mais voilà, donc, mais refaire du textile en Europe, c'est pas illégitime.
Elle va bien au-delà de la découverte de nouveaux biens, de nouveaux processus de production.
Gilles.
Oui, revenir d'un mot sur la première question que vous avez posée. Je crois que la bonne opposition n'est pas entre économie de marché et économie sociale et solidaire, dans la mesure où l'économie sociale et solidaire est dans l'économie de marché. Vous avez d'un côté des entreprises privées avec des actionnaires et d'un autre côté un secteur mutualiste, coopératif, avec des gens qui ne sont pas des actionnaires. Et ce à quoi on assiste, et je crois que c'est ça qui est très intéressant, c'est à une sorte de renversement, au sens où, quand on regarde les 10 ou 20 dernières années, l'économie sociale et solidaire a beaucoup regardé ce qui se passait du côté des entreprises privées, et que c'est ça qui est en train de bouger dans l'autre sens, où on voit de plus en plus l'économie de marché, les entreprises privées, non pas absorbées par l'économie sociale et solidaire, mais regardez ce qui se passe. À la fois ce qui s'est passé ces dernières années, je pense à tous les mouvements autour de la responsabilité sociale et écologique des entreprises, je pense à la loi Pacte, aux entreprises à mission ou à la présence des salariés dans les conseils d'administration. La question, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin? On a publié, la Fondation Jaurès a publié il y a quelques jours un rapport de Pascal Demurgé, qui est le directeur général de la MAIF, dans lequel il y a des propositions très précises sur les marchés publics, sur la fiscalité, pour faire en sorte que l'État et ses entreprises repensent leurs relations pour accélérer la transition sociale et la transition environnementale.
Je me demande si on est en pleine campagne présidentielle ou pas, parce que très sincèrement, ces propositions, ces débats, ces discussions, je ne les ai entendues nulle part ailleurs, ni entre les candidats, ni dans les différents partis. C'est quand même sidérant, Philippe Aguillon. Bonjour. Non, et je suis heureux qu'on puisse justement en débattre. Bonjour monsieur et bienvenue.
Oui, bonjour. Je suis responsable d'une coopérative d'activité et d'emploi. Alors, il s'avère que c'est une SCOP aussi, mais je vais pas rebondir directement sur le sujet. Vous avez commencé déjà à en parler. Mon intervention va porter sur la question de l'avenir des modes de travail. Je parle à partir d'une coopérative qui a été créée à l'intérieur d'un groupe d'insertion par l'activité économique. Ça veut dire qu'on se questionne de savoir comment on prépare des gens à retrouver un emploi dans le monde du travail actuel et à venir. Et puis, donc, responsable d'une coopérative d'activité et d'emploi, ça veut dire que nous accueillons sous une seule personne juridique actuellement 170 entrepreneurs qui développent 170 activités très, très différentes. Le constat qu'on peut du coup poser, et avec ce double regard, et de gens qu'on accueille pour l'insertion et de gens qu'on accueille parce qu'ils ont envie de créer une activité, mais ensemble, même si c'est leur activité à eux, c'est avec d'autres qui le font, on est confronté à trois grands mouvements, me semble-t-il, par rapport aux questions de l'évolution de ce monde du travail. C'est de la part des entreprises une volonté d'externaliser les coûts salariaux, voilà, de transformer des charges fixes en charges variables, pour voilà, parler un peu à l'économiste. On a qualifié ça d'ubérisation dans le grand public. Il y a de la part des salariés une moindre tolérance à la notion de subordination à l'intérieur dans la relation entreprise. Et puis aussi, alors peut-être plus dans les jeunes générations, mais en fait, ça m'intéresse aussi qu'on parle de ça, même avec mon âge. C'est la question d'articuler une vie privée et vie au travail, différents modes d'investissement à l'intérieur de son travail. Voilà. Donc ma question, c'est est-ce que vous constatez ces mouvements de fond et c'est quoi l'avenir? Parce que on peut parler de développer le monde industriel, réindustrialiser, mais avec quels salariés, dans quel cadre de travail? Parce que sinon, on peut toujours en parler de ça.
Merci pour votre question, Philippe Aguillon.
Je vais essayer de répondre. Vous parliez de l'ubérisation qui est importante. Je crois, et un élément, c'est le télétravail maintenant. C'est-à-dire qu'une des choses qui va rester, il y avait un tout petit peu de télétravail avant la pandémie, mais en fait, avec la pandémie, il y a eu évidemment une accélération de développement du télétravail. Et ça va rester après la pandémie. C'est quelque chose qui va rester. Et donc, c'est intéressant parce que ça génère des gains de productivité très importants. On voit partout où ça se pratique, ça génère des gains de productivité importants. Ça va affecter l'environnement, les gens vont peut-être moins se déplacer, donc il y a peut-être moins de pollution, moins de... Et puis ça va affecter les prix de l'immobilier ici ou là, on parlait du logement tout à l'heure.
Oui.
Donc dans certains endroits, ça va peut-être faire augmenter le prix de l'immobilier, dans les centres-villes, ça va peut-être le faire baisser. Donc c'est très intéressant, le phénomène du télétravail est intéressant de savoir qu'est-ce que c'est encore que l'entreprise quand il y a beaucoup de télétravail, comment joue la collectivité ? Est-ce qu'il faut quand même se retrouver ? Et en même temps, il y a le télétravail. Donc, comment les hiérarchies vont survivre ou pas? Comment l'entreprise va se
réorganiser? La fraternité, Philippe Aguillon.
Exactement.
Non, mais c'est intéressant. Exactement. Parce que...
Et les salaires, est-ce que les gens sont prêts à travailler? Vous voyez, le rapport, est-ce que je suis prêt à accepter un emploi, un salaire très faible? J'ai le télétravail, comment j'opère? Est-ce que je me mets auto-entrepreneur beaucoup plus et je traite avec différentes entreprises et moi je travaille en télétravail? Ça va révolutionner beaucoup de choses. Et ça, c'est une des grandes choses. La Covid a eu un effet d'accélérateur énorme sur le télétravail. Il y a des études passionnantes maintenant sur les impacts du télétravail. C'est quelque chose de tout à fait important, en plus, évidemment, de ce que vous avez mentionné.
Natacha.
Je crois que nous avons vécu ces dernières années une escroquerie fondamentale qui était l'idée que chacun allait devenir auto-entrepreneur et que c'était une liberté. Or, on s'aperçoit que ce n'est absolument pas une liberté, c'est une forme de nouvel esclavage. Sans aller jusqu'à ces malheureux qui, sur des vélos, prennent des risques absolument monstrueux pour livrer des repas. Et je suis toujours frappée de voir à quel point les gens qui commandent ces repas ne veulent pas voir en fait les conditions dans lesquelles ces gens travaillent. C'est-à-dire que finalement c'est tellement confortable d'avoir des esclaves à disposition qu'on préfère ne pas savoir quel est le système. Donc tout ça, aujourd'hui, on nous a fait passer ça pour une liberté. Et moi j'ai le souvenir de discussions avec différents penseurs de ce système qui m'expliquaient, une discussion avec Jacques Attali qui me disait, mais le monde ouvrier c'est l'aliénation, alors que si chacun devient auto-entrepreneur, devient entrepreneur et choisit ses conditions de travail, ça va être formidable. Mais ça n'est pas vrai. On a simplement détruit deux siècles de conquête sociale.
Et c'est ce qu'on est en train de continuer. Mais Natacha, à nouveau, tout dépend.
Philippe Aguillon.
Tout dépend des institutions que vous mettez en face.
Mais justement, pour l'instant, le gouvernement français ne lutte pas contre ça.
Il faut inventer et renouveler le droit du travail et le droit social de façon que, l'auto-entreprise et le télétravail deviennent des leviers de promotion sociale. Et voilà. Et donc tout dépend. Si vous n'avez pas adapté le droit social à cette transformation, vous allez vers l'esclavage.
Mais ça a été la promesse des premiers chauffeurs Uber.
Alors voilà.
Par exemple.
Oui, mais
avant d'en arriver à la précarisation des travailleurs des apps.
Mais c'est là que l'État. Mais quand je disais le triangle avec l'État, c'est là que c'est pas les entreprises toutes seules qui peuvent faire ça. Il faut l'État et la société civile.
Mais il faut que l'État veuille préserver des droits sociaux.
Voilà,
il faut qu'il décide qu'il y a des choses sur lesquelles on ne renonce pas.
Il faut que l'État, sous le contrôle de la société civile, fasse ce qu'il faut pour que ça devienne des leviers d'émancipation et pas des instruments d'esclavage comme vous le décrivez.
Gilles Finkelstein.
Oui, un mot pour répondre à la question sur le rapport au travail et sur l'évolution du rapport au travail, notamment de la jeune génération, parce qu'il y a eu maintenant beaucoup de travaux qui ont été menés là-dessus. On voit qu'il y a à la fois une demande de sens et une demande de reconnaissance. Le sens, c'est évidemment le contenu du travail de chacun, mais aussi ce que fait l'entreprise. Mais ce n'est pas seulement ça. Le sens, c'est aussi le sens du lieu, et c'est ce que disait tout à l'heure Philippe Aguillon. Le télétravail s'est développé de manière considérable, mais le télétravail, ce n'est pas tout, et ça ne peut pas être tout. Ce que on cherche aussi quand on travaille, ce sont des relations sociales. Donc, le sens, c'est ça. Et la reconnaissance, très importante, c'est évidemment la reconnaissance symbolique, c'est la reconnaissance dans l'organisation de l'autonomie du travail de chacun, ce que vous disiez un peu sur l'évolution des relations de subordination.
Et de l'argent, me chuchote Philippe Aguillon.
Eh bien, enfin,
c'est le
salaire. Et c'est par ça que j'allais terminer. Voilà. La reconnaissance, c'est d'abord la reconnaissance financière, c'est le salaire. On a fait une enquête sur les jeunes, les attentes des jeunes vis-à-vis des entreprises. Eh bien, avant le sens, c'est la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est d'abord un salaire. Malgré tout, quand on travaille, c'est aussi pour être payé.
Parfois.
Oui.
Merci de le faire gratuitement, en tout cas tous les deux. C'est vraiment chaleureusement que je vous remercie. Oui, une question dans le public.
Bonjour, je m'appelle Ulysse Vion. Je suis élève au collège Jean Gé, juste à côté, à Valence.
Bienvenue.
Et donc j'avais une question. Y a-t-il assez de ressources pour répondre aux besoins de tous? Et est-ce que le fait de répondre non à cette question qui crée l'insatisfaction et donc la compétition et les inégalités?
Oui. Alors, je voudrais bon, répondre un peu à ça, parce que c'est lié aux questions de la décroissance, d'accord ? On a pensé un certain temps, on dit, voilà, les ressources sont limitées dans le monde. Et donc, à un moment donné, on va être condamné à la croissance zéro, quoi. Parce qu'à un moment donné, on va épuiser les ressources. Ou bien on s'est dit, après, avec le climat, ben, on va pas y arriver, quoi. Et c'est vrai qu'historiquement, si on regarde la température dans le monde s'est mise à augmenter au moment du décollage de la croissance en 1820. Vous savez que la croissance mondiale n'a que 200 ans d'âge. Et la température augmente au moment de la première révolution industrielle. Donc on peut dire naïvement, eh ben, revenons à avant. Parce que c'est la croissance qui a été la source de tous nos maux. Mais ça, c'est un raisonnement qu'on appelle malthusien. Malthusien, le monde de Malthus, c'est un monde où les ressources sont limitées et il faut serrer la ceinture au max, d'accord ? Mais il y a l'innovation qui nous sauve, parce que l'innovation recule les limites du possible. L'innovation vous permet de découvrir de nouvelles sources d'énergie. L'innovation vous permet d'utiliser de manière de plus en plus économe les ressources limitées. Et donc, si vous voulez...
Mais Philippe Aguillon...
Mais seulement, le problème, c'est que l'innovation n'est pas spontanément verte.
Non.
Pas spontanément vers l'environnement.
Ah bah alors, écoutez, Ulysse...
C'est là qu'on a besoin
du collège
de l'État et de la société civile.
Philippe Aguillon,
oui.
La question d'Ulysse, elle veut dire aussi, est-ce que nous ne sommes pas en train d'avoir une attitude tellement prédatrice vis-à-vis de la planète qu'on n'arrivera jamais à produire suffisamment avec les ressources dont nous disposons?
Est-ce qu'on peut pas comprendre la question alors d'une toute autre façon, de la manière, en tout cas moi je l'ai comprise comme ça, est-ce que ce qu'il y a comme revenu et comme ressources, comme patrimoine aujourd'hui en France, s'il était réparti et redistribué différemment, permettrait à chacun de vivre mieux? C'est aussi une autre manière d'aborder cette question-là. Je ne sais pas quelle était...
Je peux en ajouter une autre avant. Je voudrais juste...
Mais attends, dans la redistribution quand même, Gilles, c'est l'idée de la mobilité sociale. Il faut redistribuer et il faut donner à chacun... Tu vois, la possibilité d'arriver et de produire plus de richesses, tu vois.
Philippe Aguillon.
Je crois que c'est ça la grande possibilité. Qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent vivre correctement, ils veulent que leurs enfants vivent mieux qu'eux.
Est-ce qu'on peut juste ajouter un point à la réflexion, qui est que la question, c'est aussi celle des besoins. L'innovation, c'est formidable, mais l'innovation se fait depuis des décennies au bénéfice d'une société de consommation. C'est-à-dire qu'on fait consommer des produits inutiles parce que ça fait marcher la machine économique et que ça crée de la croissance. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement ?
L'innovation, alors c'est là qu'est le marché triangle. On innove parce qu'on a un marché pour l'innovation.
Qu'est-ce qu'on va dire ?
On va supprimer.
On le crée par la publicité.
Donc, alors maintenant, après, vous pouvez dire, on peut réguler, c'est-à-dire qu'effectivement, spontanément, l'innovation va vers ce qui rapporte et pas ce qui est forcément, par exemple, bon pour l'environnement. Alors, on a l'État a des instruments, la taxe carbone, les subventions à l'innovation verte, et c'est là qu'il faut l'État.
mais en même temps, la société civile et les consommateurs jouent un rôle très important pour pousser les entreprises à aller davantage vers les technologies vertes. Donc on voit bien le triangle. Effectivement, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on ne peut pas se reposer uniquement sur l'entreprise, parce que l'entreprise, eh bien, elle ne va pas nécessairement vous amener vers un meilleur environnement ou vers...
Oui, mais c'est compliqué de ne pas répondre à Natacha, et si on a envie d'acheter la nouvelle paire de baskets dont on rêve, Natacha, comment on fait?
Mais déjà, demandez-vous qui vous a fait rêver de cette nouvelle paire de baskets, hein.
C'est vrai, c'est une très bonne question.
Est-ce que vous croyez que vous êtes libre?
Faut l'acheter ou pas? Non, mais c'est vrai que c'est une question qui nous interroge tous collectivement.
Vous allez, décider d'en haut ce que vous pouvez consommer et pas consommer. C'est ça la société que vous voulez?
Absolument pas, absolument pas.
C'est l'absence de liberté.
Parce que je ne crois pas.
Les gens doivent être libres. Les gens doivent être libres.
Mais c'est dans la société actuelle qu'on n'est pas libre.
Je suis pour la liberté.
Ça vous rend pas libre.
On ne peut pas consommer ce qu'on veut, mais d'un autre côté. Il faut que, évidemment, si des consommations portent atteinte à l'environnement, portent atteinte, eh bien, à ce moment-là, on régule. Et on régule l'activité des entreprises et la société civile aussi.
Et enfin, on régule, Philippe Laguillon, quand on parle de Total Energy, et Natacha nous rappelait tout à l'heure les bénéfices records de cette entreprise sur l'exploitation d'énergie fossile.
Oui.
Bon, on est sidéré, on se dit très sincèrement, qui va réguler ça?
Mais attendez, quand vous allez augmenter la taxe carbone, quand vous avez tous ces outils-là? Quand vous allez faire une politique industrielle qui va pousser pour de nouvelles sources d'énergie, d'abord, on va construire des centrales nucléaires davantage. Je crois que c'est une bonne idée, qu'il fallait le faire.
C'est pas encore fait. Hein. Pour le moment, on a un peu de mal à en construire une.
On a pris du retard.
On a fermé de nouvelles sources d'énergie. Comme la fusion nucléaire, c'est tout près d'ici, c'est pas loin d'ici, Manosque. Hein. La fusion nucléaire, il y a un énorme espoir sur la fusion nucléaire, sur le photovoltaïque, sur l'hydrogène. Donc le futur, c'est d'investir dans ces choses-là. Et c'est ça qui va faire...
Pour le bonheur collectif, pas pour la consommation, pour le bonheur collectif. Peut-être qu'il faut repenser aussi l'objectif d'une société.
Mais c'est ça l'idée de la politique industrielle, c'est que vous dirigez le changement technique vers des objectifs sociaux.
Le bonheur, c'est une question économique, Philippe Aguillon, monsieur le professeur.
C'est très important, le bonheur. Par exemple, comment réconcilier la croissance avec le bonheur? On sait que la destruction créatrice, c'est l'idée de l'innovation qui supprime d'anciennes activités. Aux États-Unis, la destruction créatrice, c'est ce qu'on appelle les morts de désespoir. Les gens ont tellement peur de perdre leur assurance santé, etc., avec le chômage, qu'il y a beaucoup de suicides, d'opioïdes, etc., de consommation d'opioïdes. Si vous mettez en place un modèle social qui fait qu'on protège les gens qui se trouvent sans emploi, qu'on les aide à rebondir, qu'on leur donne une formation, eh bien, à ce moment-là, on réconcilie l'innovation et la croissance avec le bonheur. Et à nouveau, c'est les institutions comme les Danois sont bien meilleurs que les Américains pour réconcilier l'innovation avec le bonheur.
Et les Français sont doués pour le bonheur?
Les Français, disons, ils sont un peu entre les deux, et on est peut-être. Alors, il y a l'idée, est-ce qu'ils sont? C'est la perception.
On va devoir s'en arrêter là.
Donc, ça, c'est toute une question sur le. Il y a eu des études là-dessus. Est-ce qu'on ne pense pas être moins heureux qu'on l'est vraiment? Est-ce que il y a une tendance qu'en France, on se perçoit pire qu'on nous sommes? Aux États-Unis, et c'est les travaux de Stancheva. Aux États-Unis, on tend à se percevoir mieux que nous sommes. Donc, c'est toute la question des perceptions et de la réalité.
Merci infiniment, en tout cas, Philippe Aguillon, d'avoir participé à ce grand face-à-face XXL depuis Valence. C'était absolument passionnant. Merci à vous d'avoir participé, assisté à cette émission. Rien n'est perdu. Il reste combien de jours avant la campagne, avant d'aller voter, Gilles?
Je sais pas, un peu moins de 60. Non, on a posé la question aux Français. Est-ce que vous connaissez la date de l'élection présidentielle? 25% donnait la bonne date, donc c'est, pour ceux qui ne l'ont pas encore noté, c'est le 10 avril, le premier tour de l'élection.
Voilà, donc on peut rêver que d'ici le 10 avril, le débat s'installe et qu'on parle de questions aussi passionnantes que celles que vous nous avez permis d'aborder, Philippe Aguillon. Merci infiniment et merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Dominique Allard, Benjamin Perru et toute l'équipe technique du Palais des Expositions Jacques Chirac et Marine Claude, grâce à laquelle nous nous déplaçons chaque mois à travers la France. Merci à la ville de Valence pour son accueil. Florence Baudet de France Bleu Drôme Ardèche pour sa précieuse collaboration. Et à vous, cher public, merci. Le grand face-à-face XXL à Valence se termine sur des applaudissements, évidemment.